Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu. On se retrouve une semaine après dans l'antichambre de l'enfer. J'espère que, comme moi, vous avez souffert et passé les 7 derniers jours à revoir ces films qui sont en partie des films de merde. Moi, j'ai revu donc Conjuring 2, mais surtout La Nonne, La Dame Blanche. C'était franchement pénible. Mathieu, Judith, avez-vous fait comme moi ? J'espère ne pas avoir souffert seul, quand même.
Et oui, effectivement, moi aussi. Je n'ai pas que souffert, en revanche, c'est la différence entre toi et moi. Mais oui, j'ai aussi fait mes devoirs.
Oui, toi, Mathieu ? Il y a des films que j'ai considérés que je les avais vus il y a assez peu de temps pour ne pas les revoir. Donc j'ai une excuse, c'est bon.
Ça, c'est une manière de dire qu'il a pas travaillé.
Une manière de dire qu'il les détestait suffisamment.
Ouais, non, mais désolé, mais La Dame Blanche,
oui.
C'est une attaque à la personne, en fait. Tu peux pas te réinfliger ça. C'est interdit par la Convention de Genève.
Donc, on avait déjà quand même bien survolé hein, le Conjuring-verse en parlant du côté Annabelle-verse, en parlant de Conjuring 1, Annabelle 1, Annabelle 2, Annabelle 3. Maintenant, on est du côté non-verse, puisque comme on l'a vu sur les conseils de Judith, on a redivisé cet univers. On va envoyer un mail à Warner pour leur dire de retitrer leur film à la con. On est donc du côté Conjuring 2, La Nonne 1, La Nonne 2, c'est-à-dire le non-verse.
Le non-verse du mal.
Le non-verse du mal. Et on va voir où est-ce qu'on casse Conjuring 3 et La Nonne et La Dame Blanche, qui sont un peu du côté poubelle non recyclable.
Poubelle-verse.
Ok, alors Conjuring 2, j'imagine que comme le premier, vous trouvez que c'est bien.
C'est moins bien, mais c'est bien quand même.
Ah ouais, pourquoi c'est moins bien que le premier ? Parce que pour moi, c'est vraiment une copie quasi conforme. C'est peut-être pour ça, du coup.
Ah non, alors déjà, il y a le fait que quand on arrive en Angleterre, il y a les clashs. Genre, stop, arrêtez. Non, non, mais c'est vrai.
J'avoue que c'est vrai que le montage de...
Alors, on va voir, c'est London Calling.
Ah,
mais surtout, c'est pas que ça, c'est que tu vois des images de Londres. On dirait vraiment l'épisode de Friends quand ils sont à Londres. C'est quasiment le même montage, quoi.
Non, mais il y a ça, il y a... Non, pourquoi la question, pourquoi c'est moins bien ? Oui, alors effectivement, les clashs. Et parce que... Non, parce que là, c'est pareil, le final... Alors certes, c'est pas tellement une question d'exorcisme, mais en fait, il y a cette espèce de gâchis, un peu, je trouve, de l'image de la nonne donc, qui apparaît dans ce film et que je trouve vachement bien au début. Et à la fin, de bon, en fait, il suffisait de savoir son nom et en fait, de l'appeler par son nom pour la faire disparaître.
En
fait, voilà.
Valak
et non pas Valek ni Balek, du coup. Et du coup, bon, je trouve ça un peu plus faible... Et il y a un côté aussi un peu plus foutraque. Alors tu me diras, il y a un peu de ça dans le premier film. Je sais que vous aimez bien la séquence du Croaking Man. Et je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve juste qu'elle a rien à faire dans ce film.
Ouais, je l'ai un peu... baissé en qualité en la revoyant. Quoi. Je me suis dit, bon, dans mon souvenir, c'était mieux, comme tous les films de cet univers. Mais
je l'aime vraiment bien, cela dit. Hein. Il n'est pas tellement en dessous du premier pour moi. Hein.
Ok. Et toi, Mathieu, pourquoi tu penses que toi aussi, c'est moins bien que le premier Conjuring ?
Je pense que c'est un peu moins bien parce que déjà, c'est très long quand même. 2h13. Voilà, le film est un peu en deux parties. Le film est un peu en deux parties. Ouais, c'est hyper long. Ouais. Qui sont un peu inégales, je trouve. Il n'y a pas le côté. Mine de rien, un peu. Pas une nouveauté puisque c'était pas du tout original, mais. C'est quand même un plaisir de retrouver le côté un peu histoire vraie et tout. Dans celui-ci, on voit plus le côté franchise, tu vois ce que je veux dire. Les Warren sont représentés comme des genres de super-héros. Le côté bondieuserie, je trouve, commence à vraiment devenir handicapant à partir du 2. T'as cette scène lunaire où Ed Warren, pour rassurer la gosse, lui explique que quand il avait peur, c'est ses cours de catéchisme qui lui ont plus ou moins sauvé la vie, quoi. Enfin, là, on est vraiment
j'ai
à deux doigts du projet.
Pourtant, par rapport à la suite, ça reste encore très laïque, comme film,
oui.
Et très républicain, mais...
Oula.
Le plus républicain des films Conjuring. Écran large, c'est pas mal comme quote sur l'affiche, ça.
Enfin, un film sans communautarisme. je suis d'accord pour dire que c'est de pire en pire, mais c'est le moment où ça commence à un peu devenir cynique quand même. Après, j'aime beaucoup l'esthétique en fait, le côté maison de banlieue anglais quoi, voilà. Et la première partie est terrifiante. Je pense que
terrifiante.
La première partie de Conjuring 2 pour moi c'est le meilleur moment en termes de peur de la franchise.
Mais
je trouve que la deuxième partie est beaucoup moins
réussie. Tu penses à quel moment dans le premier?
En fait, c'est ça qui est plutôt bon, je trouve. Et en revoyant, ça me rappelait ça. C'est qu'il n'y a pas vraiment de temps mort, quoi. C'est vraiment, il y a une bonne 45 minutes, une heure où On en parlait dans la vidéo, mais tu sais, ce moment qui est très lié désormais à ce type de cinéma d'épouvante, c'est-à-dire le moment où tu peux te reposer après le payoff, donc typiquement les rayons de lumière à travers la vitre qui illumine le salon et oh là là, on a eu peur. Et bah, dans Conjuring 2, il n'y en a pas, quoi. T'as une scène d'angoisse, et t'as une scène d'angoisse, et t'as un payoff de la scène d'angoisse, et encore une scène d'angoisse, et tu restes dans la maison, ils t'enferment. En plus, ils te font miroiter un montage alterné avec les Warren avant de te remettre dans un tunnel où tu suis que la famille, là où tu t'imaginais, comme dans le premier, à ce qu'on reste beaucoup sur les Warren, qui te mettent un peu en sécurité, en fait. Et non, tu sais que ça va partir en steak et on te laisse avec cette pauvre famille. Et moi, je trouve ça vraiment efficace, voilà.
Moi, je trouve que c'est un peu proche du premier et c'est un peu la limite, mais c'est aussi pour ça que j'aime pas le premier, c'est que c'est vraiment la même recette, donc j'ai du mal à voir énormément de différence. Je suis assez d'accord sur le fait que les coutures sont un peu plus grosses, les Warren sont plus mis en avant, parce que c'est dans celui-là que Lorraine a une vision de Ed qui va être tué,
oui,
donc
c'est
tout
déjà...
l'enjeu c'est...
En fait, dans le premier, elle a une vision qui, paraît-il, lui fait s'enfermer chez elle, et ne
ah oui,
rien
avant,
faire et
oui.
ne pas manger.
On sait pas quel était le sujet de la vision, mais...
On sait pas ce que c'est, ouais. Ce que je trouve pareil, je trouve que c'est plus évocateur de... pas savoir ce que c'est, enfin, il y a quelque chose de l'innommable.
Oui, alors que là, tu sais que c'est lui qui veut se faire empaler, tu vois qu'elle a la vision
du
truc.
Du coup,
leur
relation un peu romantique du mariage parfait, ça revient au centre des enjeux, au point que ça va finir par handicaper tout la mythologie autour, quoi.
Bah, je trouve que dans le deuxième, la famille est moins exploitée, mais moins mise en avant, alors pourtant, c'est un peu le même modèle. On est dans le même schéma d'une famille, sauf que cette fois, ils ont assumé que le père sert à rien, le père du premier, puisqu'il n'y a pas de père, là, c'est une mère célibataire avec des gamines. Quasiment, c'est que des filles, hein. C'est encore une fratrie.
Oui, je crois, il me semble. Ouais.
Et la mère, encore jouée par une bonne actrice, Frances O'Connor.
Enfin, peu importe.
Il y a un fils ?
Oui, je crois, celui qui réclame des gâteaux tout le temps, là. Mais enfin, bon, peu importe.
Des gâteaux ? On a vu le même film ?
Mais oui, parce qu'en fait, ça sert un peu d'éléments pour nous faire comprendre à quel point ils sont pauvres. C'est lui qui réclame des gâteaux.
Ah, oui.
mais
c'est lui qui voit le Crooked Man.
Le Crooked Man, voilà,
ah,
avec son petit camion, machin. Ouais.
Et c'est ça qui moi m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu un remake du premier, tu changes le décor, tu reprends la même recette, et là la seule différence c'est que, pour revenir à ce que tu disais Judith sur la nonne, c'est qu'en fait en revoyant le film je me suis dit mais en fait c'est déjà un film la nonne, parce que la menace c'est la nonne, il y a aucun autre fantôme, c'est déjà Valak du début à la fin,
le vieux dans son fauteuil.
Oui, mais du coup c'est un accessoire lui.
Oui, ah oui, bah oui,
la vraie menace, tu vois, c'est vraiment Valak qui domine le truc. C'est, ouais, c'est ça, c'est Annabelle le premier. Et du coup j'ai oublié que la nonne était dans le climax et c'est elle qu'il faut vaincre, et tu dis bah en fait c'est déjà un film la nonne. Donc la nonne a déjà une trilogie, en fait il y en a un qui s'appelle pas la nonne mais qui est déjà là.
Ils sont déjà allés au bout du potentiel du personnage.
Ouais, bah, c'est ça. Ouais. C'est que dans ce film là je trouve génial l'utilisation de la nonne, alors si ce n'est voilà à la fin où je regrette que ce soit voilà où on la voit trop, c'est trop en gros plan, il y a cette histoire de il suffit de dire son nom pour la faire dégager, tout ça c'est vraiment dommage, mais par contre
facilité, au rayon facilité scénaristique
voilà, mais par contre plutôt dans le film c'est vrai que ces premières apparitions là, quand la gamine, la fameuse Judy, la voit au fond du couloir, et moi ça me terrifie, je trouve ça tellement, tu vois, c'est
quelqu'un d'immobile dans un couloir.
Mais non, mais oui non, mais tu vois, et pourtant c'est extrêmement simple, mais ça suffit, quoi. Et parfois il faudrait que les films de la saga après le premier Conjuring aient la modestie de s'en tenir à ce genre de choses, parce que c'est terriblement efficace, il y a vraiment pas besoin d'en faire. Et puis alors pour du coup le quart du budget tu fais plus effrayant, quoi. Et la scène dans le bureau quand Ed il peint le portrait de la nonne là, sans savoir d'où elle sort, et que sa bonne femme Lorraine pardon elle juge pas bon de lui dire tiens c'est marrant, on dirait le démon que j'ai vu en vision machin. Et que bah ensuite voilà il y a toute la scène du bureau où la nonne prend vie à travers ce tableau, mais je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment
alors c'est vrai que cette scène pour le coup, moi qui suis pas très sensible à cet imaginaire, en la revoyant je me suis dit elle est bien gérée, il prend le temps, elle va dans cette pièce, elle se retrouve enfermée, ça joue beaucoup, tu vois, l'effet de le tableau est derrière elle, et tu te dis, mais on dirait pas un tableau, vas-y, c'est la nonne dans l'obscurité, là, en fait, elle allume la lumière, c'est vraiment le tableau, ça se rééteint, tu te dis, mais ok, elle va apparaître, ça prend du temps, ça s'étire, elle se retrouve enfermée, et là, tu as cet effet de l'ombre, là, bon, un petit peu dégueulasse en rendu, mais l'ombre qui va jusqu'au tableau, là, tu te dis, ok, elle va se former directement avec le tableau. Non, t'as les mains, les doigts qui sortent sur le côté du tableau. Ça, je trouve que c'est le détail qui tue. Et cet effet qui marche très bien de elle qui sort du mur, les dents qui apparaissent sur le tableau. Et j'avoue que c'est une très bonne scène. Je pense que c'est sûrement une des plus efficaces et des plus malines de toute la saga Conjuring.
Oui, carrément. Oui, et je pense que c'est vraiment ça, tu vois, l'efficacité de cette scène qui a déterminé par la suite que ça valait le coup d'en faire des films à part entière, même si en fait non, mais voilà quoi.
Oui, il y a une autre scène que j'aime bien dans Conjuring 2. C'est en fait, c'est globalement toute l'imagerie qu'il y a autour du fauteuil avec le vieux dans le salon. Mmh. Et il y a ce moment qui est pareil, que je trouve très James Wan, parce qu'il est très simple, qui joue sur la profondeur de champ, de la gamine est assise sur le fauteuil. et il essaye de communiquer avec le vieux, et on lui dit, je crois que le vieux lui dit, ou je sais plus qui lui communique, qu'il doit pas regarder le fauteuil. Du coup, il se retourne un peu vers la caméra. Toi, tu continues à voir en arrière-plan le fauteuil avec la gamine dans l'obscurité, et là, la voix change, et l'ombre sur le fauteuil change, et t'as un champ contre champ direct, en fait, avec une partie profondeur de champ flou et aide au premier plan. C'est tout simple, je trouve, mais ça marche vraiment bien. Et globalement, tout le truc autour du fauteuil avec vraiment ce vieux qui serait tout le temps assis, la télécommande qui se retrouve dessus et tout, je trouve que c'est un peu flippant, quoi, ce truc d'avoir un espèce de vieux mec chez toi caché dans un coin. Là.
Oui, qui est vraiment la caricature du vieux con, le vieux voisin qui veut pas partir de chez lui, qui part du principe que c'est toujours chez lui, c'est son fauteuil dans lequel il va regarder sa télé et Walker Texas Ranger et machin, et qui n'en bougera pas.
Tu veux qu'on parle de ton enfant, c'est ça?
Mais c'est vrai que cet arrière-plan flou dans lequel au départ tu vois bien la silhouette de la gamine, pourtant c'est très flou, hein, mais tu devines la gamine parce qu'on te l'a située avant, et en fait le changement est vraiment imperceptible, et c'est juste au bout d'un certain temps tu te dis mais attends, maintenant en fait c'est, on dirait la silhouette d'un vieil homme, mais t'as pas vu le changement, quoi.
Non, ça marche très bien, ça. Mais la limite que j'ai aussi avec ça, c'est que un des jumpscares les plus marquants du film, c'est le moment où cette gamine est seule chez elle avec la télé, avec le truc de la télécommande, la télé qui s'éteint, et à un moment contre-champ sur elle et le vieux est juste derrière elle et crie My House. En fait, j'ai l'impression que ça, c'est un truc qu'il a déjà beaucoup utilisé dans Insidious. On dirait vraiment la scène de la table au début, quand la mère, elle voit derrière son fils, joué par Patrick Wilson, le démon, sauf qu'il n'y a pas de hurlement. Et là, je me dis, bon, bah, en fait, vraiment, ça commence à beaucoup tourner en rond. C'est que James Wan réutilise des effets qui sont certes très efficaces, mais que j'ai déjà vus. Donc, quand, vraiment, en le revoyant, je me suis dit, ah, j'avais oublié, ça fait plaisir. Et en même temps, moi, c'est un peu facile.
Ouais.
Tout comme la tente. C'est très amusant d'avoir une tente avec le petit train qui est jeté quand il le met dedans. Du coup, tu dis il y a une présence dedans, mais rien que dans la saga Conjuring, ça fait au moins 2-3 fois que vous jouez là-dessus. Et ils ont continué à jouer avec ça après Conjuring 2. Donc ça, je me dis,
jusqu'à la nonne 2.
Jusqu'à la nonne 2, et c'est toujours moins bien. Parce qu'encore, je trouve que la tente, il y a pas mal de trucs où ils jouent pas mal dessus, c'est drôle, même s'il y a quelques jumpscares, notamment avec le Crooked Man à la fin. Mais c'est quand même, tu sens que déjà pour moi le premier Conjuring tourne en rond et le deuxième tourne en rond dans la même valse que le premier, donc je me dis bon, en fait c'est pas vraiment pire que le premier, mais pour moi il y a déjà encore, toutes les limites du premier sont encore là, donc j'ai un peu du mal à, je les mets dans le même sac, mais le même sac un peu bof, quoi.
Ouais.
Non, mais moi j'aime bien aussi dans celui-là, j'ajouterais, parce que je suis assez sensible aussi malgré tout, enfin je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, mais c'est juste que moi j'en étais pas encore lassée à ce moment-là, mais je suis d'accord avec Mathieu aussi, le changement de cadre est assez rafraîchissant, parce qu'en plus là il y a davantage de sous-texte social qui est amené sur le côté mère de famille célibataire qui doit assurer le quotidien de plusieurs enfants. On sent que c'est vraiment la classe populaire de la banlieue de Londres qui rame, quoi, vraiment.
Ce qui était déjà un peu dans le premier quand ils disent on peut pas déménager, on est enfermé dans cette baraque.
Oui,
je trouve pas mal.
Ouais. Et alors, je suis nulle en histoire, mais je me demande si c'est pas sous Thatcher, tu vois, s'il n'y a pas un côté discours de politique.
Est-il un expert en Thatcher?
J'ai pas la date exacte.
Allez, on va dire que oui.
C'est sa faute.
Non, mais du coup, je trouve, tu vois, il y a une sorte de texture un petit peu de léger discours rajouté qui rend les personnages un peu touchants. La scène aussi où Ed Warren, qui est décidément l'homme parfait, qui décide d'aller réparer la fuite d'eau à la cave. Et c'est pareil, on sait qu'il y a quelque chose qui va surgir dans l'eau, qui se cache dans l'eau, on croit apercevoir des choses, on n'est pas sûr. Tu vois, c'est des mini-arènes en plus et un peu différentes qui sont ajoutées et bah, qui sont sympas, qui sont bonnes à prendre, je trouve.
Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le contexte et le fait que ce soit une famille de toute évidence assez pauvre, etc. Le fait aussi que tu dis que c'est une facilité, enfin c'est pas une facilité, mais c'est une manière de se débarrasser d'un personnage qui servait à rien, de retirer le père. Mais je trouve que c'est un des rares moments où la saga réfléchit vraiment à ce qu'elle raconte sur le surnaturel, au moment où elle met quand même en scène le fait que les gens qui étaient en proie dans les vraies histoires à ce genre de hantise étaient souvent des gens démunis, enfin dans ce cas-là en tout cas c'était le cas, et que le fait qu'ils soient démunis, etc., c'est aussi ça qu'on les accuse de... Enfin, tu vois ce que je veux dire, qu'il y a un paradoxe de, d'un côté, on aimerait que ce soit vrai... Mais d'un autre côté, c'est bien pratique de dire que c'est parce qu'ils sont pauvres et qu'ils sont démunis, que du coup, ils inventent des trucs, etc. Et là, c'est quand même un gros sujet du film qui a moins dans le premier, la question de est-ce qu'ils inventent ou pas, en fait, et qui est très lié à la façon dont eux sont considérés dans le tissu urbain londonien, on va dire. C'est-à-dire, une mère de 5 filles, c'est ça, de plein de gosses. Toutes seules, et qui, du coup, forcément, galèrent, de toute évidence. Et il y a un début de réflexion, ça va pas très loin, mais je trouve qu'au moins le contexte est plus intéressant.
C'est vrai que c'est intéressant quand tu parlais de ce truc de on met plus en avant est-ce que c'est vrai ou pas vrai, notamment la scène des flics qui viennent. En fait, il y a plein de scènes où normalement dans les codes du film d'horreur, quelqu'un vient essayer de vérifier et ils n'ont pas de preuves.
Ouais,
et du coup, l'absence de preuves vient la preuve qu'ils mentent. Et toi, tu sais, comme les gens qui ont été victimes de ces phénomènes, qu'il suffit juste du bon timing. C'est comme ton ordi qui ne marche pas. Tu appelles quelqu'un, on te dit bah non, il marche très bien. Oui, mais il y a une heure, il ne marchait pas. Mm. Du coup, tu as envie que ça se manifeste. Ouais. Et là, quand les flics viennent, tu as des chaises qui bougent. Quoi.
Ouais,
et en fait, il y a plein de monde. La mère, très rapidement, elle se retrouve elle-même confrontée. Elle dit à ses gamineurs, vous me faites chier et tout. Et en fait, la porte, la commode qui valse devant elle. Et donc, c'est amusant.
Quand le mec vient pour l'interviewer, elle direct, elle se transforme en démon à la voix rock à la télé, quoi.
Ouais.
Et ouais, c'est hyper intéressant que il y a des, en fait, les preuves sont là, tu vois. Et la raison pour laquelle il les croit pas, c'est pas parce que c'est un hoax, parce que clairement le film, comme tu dis, il y a pas d'ambiguïté dans les films Conjuring, ils choisissent leur camp. Mmh. Évidemment que c'est surnaturel. Mais du coup, le point de départ, c'est si on les croit pas, c'est pas parce que c'est possiblement un canular ou etc. C'est parce que c'est des gens pauvres, c'est parce que c'est des gens qui ont pas les moyens de se faire plus entendre que ça. Et c'est peut-être une des rares moments où on sent une pointe de critique envers l'institution catholique, où le prêtre, je sais plus comment il s'appelle, là, qui les aide, il leur dit, on va pas trop s'investir parce que ça a pris une tournure médiatique, etc. Et donc, il y a une composante sociale qui vient se mettre là-dedans pour dire, paradoxalement, tout le monde n'est pas égal face à la possession, quoi. Et c'est pas inintéressant, je trouve que ça aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'idée, mais au moins, c'est un peu rafraîchissant.
Mm. Et moi, il y a une scène aussi, tu vois, quand on parle des personnages qui ont des réactions plus réalistes par que dans les autres films d'horreur, je sais plus exactement à quel moment il y a quelle manifestation où en fait ils vont tous chez les voisins.
Oui.
Et tu vois, ça c'est un peu, moi je me rappelle à ce stade là du film, je me disais mais c'est bon là, moi en fait si j'étais eux je me barrerais, et d'habitude les personnages ils se barrent jamais, et là ils se barrent pour de vrai, tu vois. Donc il y a un côté un peu rafraîchissant malgré tout.
Moi je trouve que c'est un peu le retour de flamme de ce désir de montrer, de mettre en avant est-ce que c'est vrai ou pas vrai, qui passe aussi par la scène où les Warren passent sur un plateau télé et où du coup Warren il dit je suis énervé, on se moque de nous, on en prend pour des cons, genre les pauvres victimes. Et moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que d'un coup, ça démystifie totalement. En fait, tu places ça dans un décor très normal. D'un seul coup, tu vois que les trucs bougent vraiment. Les flics sont là, ils savent pas quoi en faire. Du coup, je trouve que contrairement au premier, que j'aime pourtant pas énormément, t'as moins l'atmosphère qui fonctionne. C'est un peu un truc qui s'est dilué et qui, du coup, est un peu moins percutant. C'est un peu genre, bon, le surnaturel est un peu partout. On sait pas trop quoi en faire. C'est encore des meubles qui bougent. C'est un vieux qui veut que la télé reste allumée. Bon, en fait, c'est quoi la menace? Est-ce que c'est grave tout ça? Bon, on appelle les Warren. C'est, je trouve que c'est un peu moins spectaculaire, quoi. C'est un peu plus. Bon, c'est un peu là, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? On te met en avant le fait que c'est là. Donc, je sais pas si c'est un frein pour moi dans le film, mais disons que ça n'aide pas vraiment à en faire un film mémorable à mes yeux, quoi. Cela dit, je préfère le climax de Conjuring 2 à celui du premier. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant de voir la nonne, la fenêtre, dans une pièce où t'as 72 crucifix qui sont retournés, versus un exorcisme où elle est retournée sur sa chaise dans le sous-sol. Je trouve que c'est un peu plus simple, c'est un peu plus dans ta gueule, quoi. Vraiment, elle commence à hurler dans un coin. Je trouve que c'est un peu plus satisfaisant parce que c'est plus un petit shot de spectacle que le premier. Je trouve que le climax vraiment s'étire, t'as l'exorcisme, t'as plusieurs étapes. Donc, c'est pas vraiment plus réjouissant et plus cinématographiquement fort.
Mais au moins, c'est plus court.
Ouais, c'est ça. Je crois que, quitte à me faire prendre pour un con, je crois que je préfère que ce soit un peu plus court, comme ça.
Je comprends.
Et donc, ce film a coûté deux fois plus cher que le premier Conjuring. Il a coûté 40 millions, ce qui ne se ressent pas forcément, à part peut-être le Crooked Man, on peut en reparler. C'est vrai que moi, j'aime bien l'idée du Crooked Man parce que d'un coup, ça devient un peu une menace qui est différente. C'est pas une commode qui tremble, c'est pas un démon avec une main noire. Je trouve ça un peu plus conte de fées, un peu plus féerique tordu. Mais c'est vrai qu'en le revoyant, je me dis que c'est pas très utile, c'est pas très bien exploité, et le fait qu'il parle autant, ça casse un peu son aura, quoi.
Bah puis même ce que tu dis sur l'aspect plus conte de fées qu'il a. Moi, je trouve que le concept est plutôt sympa. Le jeu, au départ, avec le comment appelle-t-on ça déjà,
qui tourne là,
le truc qui tourne.
Voilà. Le tourniquet,
l'ancêtre du cinéma.
Je ne sais pas quoi.
Voilà. Donc en fait, je trouve juste qu'il matche pas du tout avec cet univers. Je trouve qu'il est chouette, mais je trouve que on dirait vraiment une idée, enfin une pièce rapportée du pitch d'un autre film. Et en fait, je sais pas. Enfin, je trouve ça bizarre qu'ils aient inséré ça parce qu'il y avait plein d'autres idées, je pense, à pouvoir insérer pour enrichir un peu tout ça. Encore une fois, je dis pas que c'est pas bien. Hein, c'est juste que je trouve qu'à chaque fois, moi, ça me sort du film et de l'atmosphère qu'on essaye d'instaurer depuis le début.
C'est ce que j'aime, j'avoue, dans ce personnage-là.
Ouais,
vraiment, un des trucs qui me saoule le plus, au-delà du côté éthique et cato, et autour de la figure des Warren, sur lequel on va revenir plus tard, mais ce qui me saoule dans la saga, c'est le fait que les antagonistes soient hyper génériques. Tu les changes de couleur, en fait, et c'est la même chose à chaque fois. Et là, moi, j'étais content de voir, comme tu dis, quelque chose qui a plus un côté un peu comptine pour enfants, que je trouve un peu flippant. Moi, j'aime bien ce genre d'univers. Ça m'a un peu fait penser à Babadook sur certains points.
Mais je trouve que c'est un peu un Babadook Fisher Price, tu vois.
C'est pas faux.
Mais... bah, c'est vrai que l'idée de lui qui se transforme à partir du chien, qui est censé être innocent, alors qu'encore une fois, James Wan te filme le gamin qui va aller vers dehors, t'as la porte, qui mène vers le jardin, tu dis... ok, où est la menace? Il y a un truc chelou. Ah, qu'est-ce qui se... ah, c'est le chien qui se transforme tel un gremlins démoniaque, quoi. Et il devient le Crooked Man. Mais le rendu est un peu chelou. En fait, il joue pas beaucoup, pas assez le côté stop motion d'un truc qui serait un peu désarticulé. Et je trouve surtout quand ils essayent de l'incarner, tu te dis, mais c'est quoi la menace de ce truc? Qu'est-ce qu'il fait s'il te... il doit te toucher, t'attraper? Il t'emporte dans une autre dimension, il te broie en deux. Oui. Et quand il revient à la fin avec Ed, pareil, en sortant de la tente et il sort de la chambre, je trouve que c'est un peu anecdotique. En fait, ils l'ont vraiment pas exploité. Et encore une fois, là, pour le coup, c'est ça qui me gêne dans cette scène-là, mais qui est aussi lié au fait qu'ils veulent te mettre le nez dans le surnaturel et l'établir comme réel, c'est que quand le Crooked Man apparaît, tout le monde est réuni après dans le salon, et ils entendent la gamine hurler, tant tu vois l'ombre de Crooked Man, et t'as plein de témoins, t'as les voisins et tout, et après t'as la gamine qui apparaît. Et là je me dis, bon, je commence à avoir du mal à marcher en fait à ce stade-là, parce que tu me montres, je comprends l'idée que le surnaturel est vraiment là, du coup t'as plein de gens qui réagissent, t'as la gamine qui, dont l'ombre était Crooked Man, qui apparaît, qui est normal, enfin normal entre guillemets. Là, je trouve que ça manque un peu de créer du mystère, tu vois, du mystique autour de ces trucs. J'aurais préféré que, même si c'est une ficelle, que le truc apparaisse à quelques personnes qui disparaissent après, que t'aies l'impression que tout le monde... En fait, souvent, les démons sont là pour te faire perdre la boule, te rendre fou et te donner l'impression qu'en fait, tu perds les pédales jusqu'à ce que tu dises « Ok, je te donne mon âme parce que j'en peux plus », si je caricature un peu, quoi. Et là, je trouve que ça joue beaucoup avec la limite de « En fait, il est là, ils sont là, les gens le voient. Bah ok, so what, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qui se passe si, en fait, le Cookie Man, il est face à 5 personnes ?»
Belle métaphore d'écrire face à Google, ça.
Oui, ce que j'allais dire.
Et ensuite tu dis bon, c'est bon, prends mon âme, c'est bon.
Fais ça. Et je trouve que c'est un peu bah du coup j'ai perdu le fil, j'allais dire un truc, c'est que moi j'aurais bah non, qu'est-ce que j'allais dire, j'ai un Crooked Man quand il apparaît. Bah voilà, enchaîner sur autre chose.
Bah, attends, juste si je peux rebondir là-dessus, c'est que dans mon souvenir, le Crooked Man, il n'y a pas de lien établi clairement entre la nonne et lui. C'est un peu genre comme il y a un démon dans le coin, bah il y a des trucs qui se réveillent.
C'est comme Annabelle 3 que t'aimes bien, tu vois, c'est
pas... Oui, mais là, c'est, je veux dire, là, on nous présente pas l'objet dont il sort comme étant un objet maudit, tu vois. C'est, là, c'est un peu plus comme si c'était un hasard
il
de gros bâtard.
À la fin, ils le mettent dans la pièce.
Oui, du coup, oui. Mais là, c'est un peu genre, bon, bah il se trouve que ce truc-là, oui, il était maudit aussi, pas de chance, ça tombe sur les mêmes personnes. Enfin, je trouve ça dommage que... Parce que du coup, sinon, est-ce qu'il faut imaginer que Valak, c'est un démon hyper joueur quand même, qui s'est dit « Je vais rajouter un autre truc, tu vois, je vais créer une sorte de monstre, il sortirait de ce jouet, et gna gna gna. » Et bon, du coup, c'est d'autant plus mal inséré dans le film et dans l'histoire.
Bah, ça rejoint le fait qu'on ne comprend pas l'étendue des pouvoirs, la nature des pouvoirs et la nature de ces créatures. En fait, c'est vraiment la roulette russe, quoi. Il y a des fois, ils sont capables d'enfoncer une porte, des fois, juste, ils tapent à la porte, des fois, ils sont capables d'apparaître derrière toi. Tu te dis, mais quel est le but dans plusieurs, dans les Annabelle notamment, on te dit, ils sont là pour te rendre fou, pour t'affaiblir, notamment aussi dans le premier Conjuring. Et dans d'autres, tu te dis, mais le but de ces trucs, c'est quoi? C'est de me tuer, mais s'il m'attrape, il me casse en deux, il me tue, il me bouffe. Et pourquoi il ne le fait pas mieux alors qu'il a des pouvoirs? Et je trouve que c'est là aussi la limite, c'est que régulièrement, je me dis, ok, je ne comprends pas quel est le but de ces trucs, et je comprends pas pourquoi ils sont là, à part pour me donner un petit jumpscare. Et c'est là que je commence à sortir du film, en me disant, ok, on me prend vraiment pour un con le truc de juste apparaître comme dans un train fantôme, tu vois, t'as quelqu'un qui arrive, on entend boum, mais tu dis, oui, mais t'es un intermittent, je sais que tu vas pas me tuer. Ok, bon, salut, tu vois, c'est un peu pareil. Tu vois.
T'es un intermittent.
Non, mais... non, mais je suis d'accord.
T'as fait tes heures.
Et c'est pour ça, tu vois, que moi, en général, au cinéma, de manière générale, je préfère les histoires de fantômes que les histoires de démons, parce que, effectivement, le lore des démons et leurs pouvoirs et les réels enjeux qui gravitent autour d'eux sont très mal définis. Et du coup, moi, c'est un peu ce que j'aime dans cette saga, c'est que finalement, les démons, avant d'arriver au final, en général, ils sont traités un peu comme des fantômes, tu vois. Et la Nod, au début, dans les scènes qui sont bien, ça pourrait tellement être un fantôme, quoi, simplement. Et bah, là, du coup, ça marche beaucoup mieux. Mais c'est vrai que
ça, c'est hyper générique, mais des fois, ils prennent des entités, qu'elles soient des démons, des fantômes ou tout ce que tu veux, en fait, ils piquent juste le concept, enfin, ils piquent le nom même, enfin, Valak. Alors, en ayant revu Conjuring, je me rends compte qu'au moment où elle dit son nom, elle donne une de ses définitions selon le...
Ah oui, c'est vrai. C'est quoi déjà?
Le seigneur des serpents, ou je sais
oui,
pas quoi.
Oui, c'est ça.
Nom propre.
Elle sera le dictionnaire au lieu de la Bible, ce serait génial. L'étymologie.
Tu l'attends. Oui, truc du serpent, je sais plus exactement.
Oui, c'est vrai.
Mais tu sais, dans un des bouquins des années 1600-1700, où il y avait tous les noms des démons qui ils sont des choses dans lesquelles la mythologie, on va dire, de l'horreur contemporaine a beaucoup pioché. Et il pioche ça, et elle dit son nom là. Et du coup, tu pourrais t'attendre à ce qu'il pioche là-dedans, qu'il y a un côté un peu sataniste et tout, que ce soit sympa. D'autant plus sympa que le Valak en question, il a quand même, je pense, genre 15 armées d'antéchrist derrière lui, quoi. Donc ça pourrait être pas mal, tu vois. Mais non, en fait, tout ce qui compte, c'est la nonne. Et il y a vaguement, dans la nonne 2, il y a vaguement je sais pas, un chien de l'enfer là.
Ah oui.
Un genre de bouc.
Dégueulasse là, oui, mais, un bouc des enfers.
Mais c'est-à-dire que même cette mythologie là, quoi que tu préfères, en fait, même cette mythologie là, ils vont jamais au bout. Ils font que prendre le nom. Ils s'en foutent complètement de ce qu'il y a derrière en termes de puissance symbolique ou même de ce que ça représente dans la religion, alors que c'est leur sujet numéro un, quoi, bordel. C'est dingue. Leur sujet numéro un, c'est la religion. Ils prennent des démons qui sont quand même hyper intéressants et ils en font des figures désarticulées qu'ils agitent comme des pantins pour faire un jumpscare tous les 5 minutes. Alors que même en étant un peu allergique au côté bondieuserie, le côté grand combat bien contre le mal dans l'apocalypse, etc., bah c'est cool. Enfin, je veux dire, il y a des trucs à dire avec, quoi. Ça peut être intéressant, ça peut être beaucoup plus flippant, ça peut être beaucoup plus spectaculaire, parce qu'on me dit pas qu'avec 40 millions de budget, ils peuvent pas mettre en scène des démons qui ressemblent vraiment à des démons hyper infernaux, quoi. Mais non, voilà. Donc, Valak, là-dessus, énorme gâchis.
C'était le coup de gueule de Mathieu, quoi.
Oui.
La religion, ok, mais mieux.
Ils ont mal parlé de mes copains démons.
Ouais, donc comme tu le disais, il a coûté 40 millions, c'est-à-dire deux fois plus cher que le premier Conjuring. Donc c'est là que je parlais du Clue Kidman, parce que bon, j'espère que tout le monde a touché un meilleur salaire, parce que c'est pas beaucoup plus spectaculaire que le premier.
Bah, ça l'est même pas du tout plus, je trouve. C'est vraiment équivalent.
Je me dis, est-ce que j'essaie de me souvenir, mais la maison, ouais, non, je vois pas. Bah, écoute, j'espère que Patrick et Vera sont payés des jolies vacances. Hein. James Wan, hein. J'espère que James Wan surtout.
Bon, alors lui, à ce moment-là, il est en vacances toute l'année. Enfin, il bosse beaucoup, mais le gars, il a créé deux des franchises d'horreur les plus lucratives de récente mémoire, et ensuite, il laisse juste sa boîte de prod tout mettre. Enfin, à ce moment-là, il a encore un peu de plein sur la planche, mais il laisse sa boîte de prod tout gérer et lui il encaisse derrière, quoi. Bien joué James.
Donc deux fois plus cher que le premier Conjuring et il fait un score équivalent au premier Conjuring. C'est intéressant que ce soit... ça n'a pas doublé alors que tu payes plus de thunes.
Oui.
Mais ça reste quand même extrêmement rentable et de toute façon la logique de la suite qui fait deux fois plus que le premier, c'est quand même exceptionnel, donc ça reste quand même très viable. Et c'est là que c'est intéressant, puisque donc ce film là qui cartonne en théorie aurait dû être suivi par un film dérivé sur le Crooked Man. Et c'était le projet de James Wan et Peter Safran, donc les deux pilotes, les deux producteurs de cette saga depuis le début. Et Safran dit, en fait, on a fait un film La Nonne parce que les gens étaient plus enthousiastes sur La Nonne. Et ils ont vraiment écrit des messages. Alors, je sais pas quels sont les critères pour dire les gens ont demandé. Lui dit, on recevait des messages, les gens nous écrivaient. J'imagine que Studio aussi a fait des super sondages absolument fiables. Mais toujours est-il qu'ils ont opté pour La Nonne alors que c'était pas le projet.
Ouais. Alors, sachant quand même que La Nonne a été annoncée 5 jours après la sortie de Conjuring 2. Donc,
est-ce que ce serait du bullshit de Peter Safran ?
On sait pas trop.
Peut-être
sachant que
c'était des projections
dans
test.
La promo aussi, j'imagine que
peut-être
la nonne
que c'était des projections test. Et dans la promo, clairement, la nonne, c'est devenu la nouvelle image horrifique un peu à la mode après Annabelle. Donc je suppose qu'ils ont dû voir ça. Mais au-delà de ça, il faut aussi se rappeler, et ça, je trouve ça quand même dingue, que la nonne, le personnage de la nonne, a été ajouté par Juan au reshoot de Conjuring.
Sérieux ?
Ah ouais.
Mais qu'est-ce
base,
qu'il y avait avant alors ?
À la base, c'était un démon de
oui,
je sais pas quoi.
On a fait une news, je suis tombé par hasard, le temps en faisant des recherches, je suis tombé sur une news d'écran large que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'il y a le design du démon qui ressemblait pour le coup à un démon plus classique.
Ouais, après, bon, dans ce cas-là, quand on dit on a les designs de ce que ça va être, c'est plutôt un concept artiste qui balance ses concept art. Donc ça tombe, ils auraient pas du tout pris ça. Surtout que son concept, ça ressemble vraiment pour le coup à ce dont je parle, un démon de l'apocalypse totale, énorme. Mais ouais, ils se sont décidés hyper tard à mettre la nonne et c'est lui qui a profité. Et peut-être que, il a l'œil, le mec, il s'est dit, ce sera plus simple, ce sera plus efficace. Alors lui, il dit, je me suis rendu compte que c'était une bonne manière dans la narration de tester la foi de Lorraine, ce qui est un des sujets du film.
Comment je peux tester la foi d'un personnage
sur
si je
nonne.
Le mettais face à une nonne. C'est ça ou le pape, vous décidez.
Et voilà, mais du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, ils l'ont annoncé juste après, donc ils avaient quand même très bien flairé.
Ok. Non, mais c'est un bon coup marketing. C'est vrai que j'avais oublié en revoyant le film, je me suis rendu compte que j'avais oublié à quel point la nonne était là jusqu'au bout. C'est pour ça que je suis étonné en le revoyant de me dire, mais en fait, c'est déjà un film La Nonne qui ne s'appelle pas La Nonne. Pour moi, elle apparaissait au milieu, elle faisait peur, il y avait un truc un peu de l'ordre de l'épée de Damoclès, mais je n'avais aucun souvenir, pour te dire à quel point le climax est marquant, qu'elle était là au climax. En fait, Valak, c'est l'ennemi principal. Donc c'est vrai que à partir de là, tu te dis, est-ce que c'est vraiment étonnant de faire un spin-off sur La Nonne qui est autant mise en avant alors que le Crooked Man, il a deux scènes, quoi.
Ouais,
deux scènes
où
tu l'aperçois.
J'en reviens pas qu'ils aient réussi à faire ça au reshoot, parce que c'est vrai que c'est quand même effectivement l'antagoniste principal, quoi, vraiment. Ouais. Et en plus, même, tu vois, partout dans le film, ils ont dissimulé son nom un peu partout, tu vois, dans le décor, sur la bibliothèque, par exemple, quand Lorraine, elle est près de sa bibliothèque, elle bouquine ou je sais pas quoi, il y a sa fille à côté d'elle. T'as des cubes posés sur les étagères et ça écrit Valak, pareil dans la cuisine, t'as un petit mobile qui est accroché, tu vois des bouts de lettres à chaque fois, okay. Et c'est toujours un bout ou l'autre du nom. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'au départ, au cinéma, je me disais, mais c'est marrant cette espèce de mot qu'on a l'air de retrouver toujours dans le décor. À la fin, je me suis dit, ah d'accord.
Mais après bon, on dit reshoot, mais je pense qu'il a, enfin de ce que j'ai compris, il a tourné le film en ayant l'idée d'un ultime, enfin le truc dont on parlait, le méga démon, et c'est à la dernière minute où, il devait savoir, je pense, qu'il allait faire des reshoots.
C'est un texte à trous, quoi.
On dit souvent reshoot est égal production catastrophique, c'est pas toujours le cas sur les grosses productions comme ça. Des fois tu vas faire des reshoots parce que il y a des trucs que t'as pas pensé en amont, enfin bref. Et là je pense qu'il avait pas son antagoniste, enfin il voulait avoir un certain antagoniste, et c'est en retournant qu'il a dû se dire que peut-être que c'était pas parfait, et du coup il s'est organisé après une séance de reshoot pour mettre cet antagoniste là.
Ok, donc Conjuring 2 qui cartonne bien en 2016 sort, donc on a vu que Annabelle 2 sort juste après en 2017, et en 2018 on arrive à La Nonne plutôt que Crooked Man, qui est donc le plus gros carton du Conjuringverse à ce jour, oui, sauf si La Nonne 2 le dépasse.
Énorme, budget 22 millions et box-office 365,5 millions, là c'est des chiffres de blockbuster, hein, c'est lunaire.
Pour quand
même... Et, truc incroyable, Deadline des fois arrive à choper des infos sur les trucs financiers des films, et celui de La Nonne est hyper intéressant parce que du coup on a notamment le budget marketing, chose qu'on n'a pas souvent, et on sait donc qu'en Worldwide Prints and Ads, donc la pub, ils ont quand même dépensé 90 millions de dollars, donc littéralement 4 fois plus que le budget. Ce qui est pas étonnant, en fait, ces films-là, c'est juste de la com.
C'est parce que je me souviens que c'était 70 millions estimés de budget marketing pour Get Out, qui avait coûté genre 5 millions, ce qui était déjà beaucoup. Et quand tu t'approches des 100 000, en fait, c'est un budget de blockbuster, quoi. C'est vraiment, quand tu arrives à 100, 120 000, ça devient un peu un blockbuster classique. 90 millions pour cette foutue nonne, quoi.
Mais pardon, mais le monde est malade quand même, vraiment, quand t'arrives à mettre à ce point-là plus dans la pub d'un produit que dans le produit lui-même, c'est dingue.
Mais
pour
compris,
réussir à vendre ce produit,
c'est
ça coûte moins cher.
Ça marche sur l'écran large. Tout... tu mets tout sur le titre et tu...
Non mais La Nonne, ça marche parce que c'est juste une image que tu placardes partout, et le but c'est de matraquer les gens pour leur montrer que ça va être le next big thing en horreur, mais juste l'image, parce que dans les films, c'est comme Annabelle, c'est juste une image statique. Sur laquelle t'accole random démon, je sais pas quoi, parce que c'est une affiche promo avec autour d'autres trucs. Ouais. C'est du génie.
Regarde, après,
c'est
les gens comme Judith qui sont terrifiés, un truc immobile au bout d'un couloir.
Oui, évidemment. Et franchement, à l'époque, si j'avais rempli un test lors d'une projection test ou je ne sais pas, j'aurais dit effectivement que j'aurais.
Mais t'es 90 millions en marketing.
Non, mais je veux dire, oui, effectivement, j'étais tout de suite très cliente de l'idée de voir un film sur La Nonne, quoi.
Après, j'avoue, quand tu vois Conjuring 2, tu te dis un film entier qui est aussi bien. Ok.
Oui.
Le problème étant que c'est pas du tout aussi bien, parce que La Nonne 1, alors qu'est-ce qu'on peut sauver dans La Nonne 1 ? L'ambiance, c'est pas trop mal, la photo, les extérieurs, le côté un peu gothique, d'être au milieu de la Roumanie, donc on change un peu de décor pour une fois. Mmh. On est dans des environnements où t'as le cimetière, le brouillard, enfin vraiment ils sont isolés, il y a personne, ils sont isolés. Mais bon, ça tu vois, ça vraiment tu plantes le décor, mais après qu'est-ce qu'ils en font ? Vraiment, c'est le film commence de manière pas trop mal et s'engouffre, et à la fin, c'est un des pires climax de toute l'histoire de Conjuring, avec le tourbillon d'eau là et la nonne qui se désintègre, on dirait quasiment un film de super-héros, quoi. Vraiment, tu t'éclates quelqu'un et il commence à tourbillonner, et t'as quasiment une dimension parallèle qui s'ouvre, et après, paf, c'est la fin. Enfin, c'est nul. Voilà.
Alors, moi, j'avais très envie parce que ça me rappelait, en fait, à une époque, j'ai lu le roman qui s'appelle Le Moine de Matthew Gregory Lewis, qui est donc un roman gothique de la grande époque des romans gothiques. Non, un peu après, peu importe. Et en fait, dans cette histoire de moine, qui a d'ailleurs subi une atroce adaptation au cinéma avec Vincent Cassel, que je vous déconseille très fortement, en fait, il y a une histoire, enfin, il y a un récit dans le récit. À un moment donné, il y a quelques pages qui racontent justement l'histoire d'un fantôme qui s'appelle La Nonne Sanglante. Et donc, ça se passe dans un couvent, et il y a donc ce fantôme de nonne qui fait peur aux gens et qui a un passé absolument tragique et qui est une âme torturée, machin. Et en fait, sur ces quelques pages du roman, qui par ailleurs est excellent, ces quelques pages, elles sont mais terrifiantes. Et ça a été une de mes plus belles expériences de lecture, dans le sens où vraiment, je n'osais pas passer à la ligne suivante tellement j'étais pétrifiée dans mon lit. Et donc, c'est resté un grand moment pour moi, un grand souvenir. Et donc, tu m'annonces un film La Nonne avec ce genre de visuel, je me dis putain, ça va être La Nonne sanglante en vrai, tu vois, en film. Et donc j'étais super chaude.
Elle est pas sanglante.
Oui, non, elle est pas sanglante, mais bon, La Nonne au moins. Ouais. Et en plus, tu me mets ça en Roumanie, couvent, église, effectivement, cimetière, brume, il y a plein de choses qui rappellent vraiment cet héritage du roman gothique qui m'avait vraiment conduit dans cette salle. Et du coup, bah ouais, moi j'étais super chaude. Et je retrouve quelques idées. Voilà, le film est extrêmement mauvais, j'ai été terriblement déçue en le voyant, certes. Mais il y a quelques idées où je me dis putain, c'est ça que je veux quoi.
Nous t'écoutons, quelles sont les bonnes idées de la nonne?
Alors, non, mais alors la scène que je préfère, je pense que c'est celle où c'est tout bête, hein, c'est au début du film, donc après que le français là, il ait trouvé la nonne pendue, enfin, donc pas la méchante nonne, une des gentilles nonnes pendue à la fenêtre du couvent. Donc on sait qu'il a déposé son corps dans une espèce de crypte, et donc il amène Thaïssa Farmiga et le prêtre qui l'accompagne dans cette espèce de crypte pour leur montrer le corps, et donc on arrive dans cette pièce qui est noire, et en fait là on trouve le corps qui est encore complètement enveloppé dans son suaire, qui est en fait assis avec les mains posées sur les cuisses. Et en fait, il est même pas spécial. C'est pas un gros plan, c'est un plan assez large où elle est dans un coin du plan qui par ailleurs est complètement noir. Et en fait, le personnage a pas encore dit qu'il l'avait pas laissée dans cette posture, que on s'en doute parce que ça aurait été très bizarre qu'il l'assit le cadavre. Et en fait, juste bah ça, cette idée, je trouve ça. Enfin, ce plan là, moi, il me glace. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'idée des cloches du coup qui sont reliées au cercueil dans le cimetière. Donc là, c'est pareil, c'est la nuit, il y a de la brume. On sait qu'à un moment donné, il y a des cloches qui vont retentir. C'est pas du tout aussi bien que ça aurait pu l'être, mais rien que cette idée que moi j'avais évidemment adorée dans Jane Doe, The Jane Doe Identity, donc des cadavres qui ont une cloche au pied pour signaler que peut-être qu'ils ont été enterrés vivants, bah là, ouais, il y a tellement un imaginaire qui découle de ça, même s'il n'est pas exploité à son meilleur, là, rien que cette idée, moi, elle me fait trop vibrer, quoi.
Alors, je dois dire que cette scène, je la trouve assez amusante, ouais. Parce que le fait que le père soit enfermé, alors c'est un petit peu ridicule le fait que, pour le coup, la nonne, le démon, la pousse, l'enterre, tu dis bon alors je comprends plus rien l'étendue des pouvoirs de ces trucs, mais bon soit, ok on va dire qu'il est enterré, et que d'un côté tu es donc l'héroïne qui elle arrive dans le cimetière et les cloches sonnent de tous les côtés, donc un niveau d'angoisse à la surface, et lui il est buried comme Ryan Reynolds, et du coup il est dans ce truc là, il appelle à l'aide et il entend quelque chose évidemment dans le cercueil. Là tu te dis comment ils vont pouvoir utiliser cet espace minuscule, et il entend du bruit vers ses pieds. Du coup, il met avec ce... C'est un briquet qu'il a ou des allumettes ? Ou sa lampe ? Je sais pas, il a un truc. En tout cas, il a une source de lumière. Et évidemment, ça va surgir du côté de la tête alors qu'il fait que de regarder vers les pieds. Je dois dire que les deux niveaux fonctionnent un peu... c'est un peu amusant. Après, je trouve que c'est un peu court. Et à la fin, je me dis... Bon, si c'est votre meilleure cartouche, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il reste encore une heure du film, quoi. Et malheureusement, bah, c'est ça le problème.
Ça aurait été incroyable, t'imagines, que donc il entend Thaïssa Farmiga qui creuse au-dessus de lui, et qu'en fait, bon, c'est pareil pour reprendre l'exemple d'un film que tu as cité, à la fin, c'est pas elle qui le déterre, tu vois, et c'est genre justement la nonne, ou je sais pas, ça aurait été trop, trop bien. Mais bon, c'est un peu le problème de ces films, c'est toujours les bonnes idées que ça te donne et que ça ne met pas en scène soi-même. Ouais.
La maladie de la saga. Ouais. Thaïssa Farmiga, d'ailleurs, qui ne devait pas être casté à la base parce que le réal voulait pas caster deux Farmiga dans la saga.
C'est la petite sœur de...
Mais dit-il, mais bon, ça ressemble vraiment beaucoup à du bullshit promo, il aurait été... tous ses doutes auraient été balayés à l'audition, bien entendu.
Moi, je pense que c'est Dieu qui lui a suggéré son nom.
Thaïssa. Ça me fait penser au réalisateur de genre Arthur Malédiction qui a dit que vraiment la fille de Luc Besson c'était vraiment pas calculé, c'est qu'au casting il l'a trouvé vraiment incroyable et que c'est lui qui a insisté pour qu'elle
c'était
soit
la meilleure.
La comparaison baiser de la mort, quoi.
C'est clair.
Non mais du coup ça leur avait servi parce que spoiler la nonne 2, enfin léger spoiler la nonne 2, le film les relie pour en faire clairement amener à la suite de la franchise où ça va devenir un genre de duo de sœurs descendantes de Sainte-Lucie ou je sais pas quelle connerie.
Au secours.
Et un truc intéressant aussi à savoir sur ce film, c'est qu'ils ne l'ont pas caché que James Wan a filé un coup de main pour les reshoots ou additional photographie comme ils disent là.
Les médias américains parlent de massive reshoot, hein. C'est une catastrophe alors, apparemment.
Mais la source quand tu la remontes, elle est très fumeuse, donc c'est pas très clair. Toujours est-il que James Wan était sur le plateau, a filé un coup de main officiellement, a filé un coup de main, et le réalisateur, donc Corinne Hardy, était content et en parle de manière positive en disant que c'était cool d'avoir quelqu'un pour filer un coup de main. Corinne Hardy, qui avait été repérée avec un film pas trop mal qui s'appelle Le Sanctuaire.
Franchement honnête. Ouais.
Voilà, ouais. C'est, pour le coup, c'est une bonne idée d'avoir casté un mec comme ça parce qu'il a fait un premier film un peu fauché, mais avec un imaginaire plutôt pas mal dans la dernière partie quand ça joue un peu sur ce qu'il y a dans la forêt, le peuple de la forêt et tout. Donc, bonne idée de casting, je trouve. Mais toujours est-il que James Wan, présent sur La Nonne, confirme qu'il était toujours là pour superviser, pour donner un peu sa petite touche. Alors, peut-être qu'en réalité, il a fait beaucoup plus que tourner des plans d'ensemble dehors dans la brume. Hein. Peut-être qu'il a juste sauvé des séquences entières, hein. On n'en doute pas. Mais. Puisqu'on va quand même se demander qui pilote la saga Conjuring, on est en 2018 sur La Nonne et James Wan est encore là. Moi, les trucs que je trouve assez ratés dans le film, c'est que, alors déjà, je pense que plus le film avance, pire il est. Il y a quand même, au fur et à mesure, ils insistent de plus en plus lourdement sur certaines tendances, notamment l'humour. Alors, la saga Conjuring n'est pas vraiment une saga qui mise sur l'humour pour dédramatiser, c'est plutôt un truc qui se prend au premier degré et qui a plutôt bien marché depuis le début. Et là, il fout un personnage de French Canadian, là, Maurice, qui sert pas à grand chose, sauf qu'il fait des blagues et qui sauve la meuf, vraiment. Alors, pour rester dans le côté teen movie de merde, l'héroïne, la nonne, est quand même très jeune, donc on est encore dans un truc qui ressemble au simili teen movie. Lui, il ressemble à un jeune teubé, donc on est un peu dans un truc un peu post-teen, parce qu'il la dragouille lourdement, puis quand il se rend compte que c'est une nonne, il dit « Oh pardon, je touche pas à ça, je vais rester respectueux. »
C'est vraiment l'archétype du cinéma hollywoodien qui a fait un truc hyper puritain, ouais. Sauf qu'ils sont coincés parce que d'un côté, c'est une nonne, et ça c'est cool parce que la pouvoir du diable, le pouvoir du Christ...
Ah, le lapsus mais, le démon.
Mais, et d'un autre côté, bah, c'est un film américain un peu teen, donc il faut qu'il se tourne un peu autour.
Donc, ils vont s'embrasser pour le bouche-à-bouche final. Ouais, quoi, c'est ça. Oh là là. Et il y a quand même le meilleur moment, c'est donc plusieurs fois il fait la blague de je suis pas français, je suis French Canadian, voilà, rigolez s'il vous plaît. Et, et à un moment il se retrouve dans une grande pièce où t'as la nonne, un cadavre de nonne après le twist de donc l'héroïne qui n'était pas entourée d'autres nonnes mais qui était dans une sorte de réalité, dimension, machin, de la foi. Et donc en fait tu te rends compte qu'il y a personne d'autre dans ce monastère, abbaye, je sais pas comment on appelle, bon, cet endroit divin. Et donc t'as juste un cadavre de nonne qui est clairement très vieux parce que c'est un squelette, et ils se réunissent tous autour, et là la nonne se réveille et on se rendrait dans un mauvais Evil Dead, puisque d'un seul coup il faut la tabasser, elle fout un crucifix dans la cuisse du prêtre, et qu'est-ce qui vient sauver la situation? C'est Maurice, le French Canadian, qui la shotgun. Le shotgun la gueule.
Attention, un mauvais Evil Dead, ça n'existe pas, rappelle.
si, on a vu Evil Dead Rise ensemble.
Non, mais ça n'existe pas.
Et je crois que la nonne commence à lui parler, lui hurler dessus en disant un truc de genre t'es français. Il lui shotgun la face.
L'insulte.
Et ouais, c'est ça.
Mais, et, t'es sale français.
Quelqu'un fait une référence au fait qu'il est français. Il lui éclate la gueule et lui dit I'm French Canadian. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible.
Et puis, il dit aussi, parce que plus tôt dans le film, à un moment donné, il se défend autrement qu'avec son shotgun. Et le prêtre, il dit, mais pourquoi il s'est pas tiré? Il a dit, non, ça, c'est que pour les urgences. Et là, une fois qu'il a niqué la tronche de la nonne, il dit, là, ça m'a semblé être une urgence.
Ah, mais en fait, oui, t'as raison, c'est ça qu'il dit en chute. Et par contre, je sais pas à quel moment il fait une blague sur un French. Ah, je crois que c'est plus tard. Bref, il y a un moment, il fait une blague sur le fait qu'il est pas français, mais French Canadian, et c'est de la merde. Voilà.
Mais pourtant, moi, je trouve que ce passage-là, au départ, Thaïssa Farmiga, qui prie avec toutes les nonnes avec cette idée qu'il y a au moins une nonne qui prie en continu, elle se relaie entre elles pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit en train de prier dans ce monastère à toute heure du jour et de la nuit. Déjà en soi je trouve ça effrayant, et là elle prie avec plein de nonnes pour se protéger, et en fait une fois que le prêtre arrive on s'aperçoit que non, elle était seule, et ça je trouve ça flippant. Et donc ce cadavre de nonne au sol avant qu'il se réveille, bah c'est pareil, c'était une super bonne idée de se dire en fait toutes ses amies, toutes ses protectrices qu'elle pensait être autour d'elle, bah non, en fait c'était, ça se résume à un pauvre cadavre.
Ouais, ça je suis d'accord que c'est l'idée un peu amusante. À ce stade-là de l'histoire, t'es en train de... Moi, je me commence à me dire, oh là là, il y a des nonnes qui racontent à d'autres nonnes l'historique, t'as un flashback de merde où tu vois l'espèce de bouche du mal, là, encore une fois, on dirait Buffy, hein, vraiment, il y a une fissure dans le sol, et t'as des espèces d'évangélistes, je sais pas quoi, qui arrivent avec la lumière blanche et les voix blanches, ouais, c'est ridicule. Donc je commence à me dire, ok, c'est l'exposition, j'en peux plus. Ah, elles sont mortes. Ok, c'est un peu amusant. Donc je suis d'accord que l'idée pour redynamiser un peu le récit, c'est pas mal. Sauf qu'après, ça devient un fight. Alors je sais que Mathieu, quand je lui ai expliqué la scène l'autre jour, qu'il avait oublié, il m'a dit bon, c'est pas mal, une nonne qu'il faut shotgun. Moi, ça me va. Hein,
mais... les associations normaux. De mots comme ça. Tu vois,
et je trouve que quand t'arrives à la dernière partie du film, où il descend dans les sous-sols, évidemment, et que t'as les apparitions de la nonne dans l'arrière-plan. En fait, à chaque fois qu'il joue vraiment sur le suspense, la tension, le frisson de la nonne dans l'arrière-plan, c'est quand même assez pauvre. Ils refont la scène de Conjuring 2 avec Thaïssa Farmiga, donc la petite sœur de Vera, qui est dans une pièce avec l'ombre de la nonne qui traverse le mur autour d'elle et qui apparaît dans un miroir, dans le reflet, le miroir explose. C'est quand même, c'est vraiment un remix de Conjuring 2.
Ah bah ça, je crois qu'il y a quasiment pas un film de la saga, je crois, où ils nous font pas le coup de l'ombre, que j'aime bien hein, sur le principe, mais ouais, l'ombre qui se déplace sur les murs et qui finit par se concrétiser dans un miroir ou un tableau ou ce que tu veux, ça c'est pareil, effectivement, on n'en peut plus, quoi.
Bah surtout que dans Conjuring 2, comme on disait, c'était des petits détails du genre les doigts qui sortent du tableau, littéralement l'image qui prend vie, qui était un peu ludique et qui sortait juste du truc CGI à la con. T'avais vraiment du physique, quoi. Tu disais, ah, mais il y a des doigts qui sortent du mur, c'est hyper évocateur. Et là, c'est juste, elle est dans le miroir, elle est derrière, ça explose, ok, bah il s'est rien passé, quoi. En plus, t'as pas l'idée de menace, parce qu'à chaque fois, c'est des espèces de coups, des appels à attention, un truc va arriver, parce qu'en fait, le miroir explose, l'héroïne hurle, elle est toute seule dans la pièce. Tu dis, bah ok, du coup, c'était comme un mauvais rêve, littéralement, c'était un cauchemar. Voilà, au bout du troisième cauchemar.
Les séquences d'angoisse sont totalement en pilote automatique. Hein. C'est une équation mathématique à ce niveau-là. C'est à telle minute, il faut le payoff avec le contre-champ. Enfin, c'est fou, c'est un cahier des charges. Je suis persuadé qu'il y a le même cahier des charges que quand tu tournes une scène d'action pour je sais pas quel blockbuster
donc,
anonyme.
Fast and Furious, donc, avec un début, un milieu, une fin.
Franchement, ouais, hein, c'est ça. C'est y a, à tous les coups, il y a un mec derrière qui doit être préposé à rappeler que il faut que ça commence comme ça et qu'à la fin, il y a le payoff avec le jumpscare et ensuite la musique a fait gling gling et ensuite c'est terminé.
Ouais, je pense qu'il y a dans le scénario se dire le tempo, là il manque une scène, il faut un frisson, il faut quelqu'un. Aussi, ce que je trouve qui marche pas, qui justement dans Conjuring marchait bien, c'était incarner l'histoire par bon les Warren, on peut penser ce qu'on veut des Cubeni, au moins ils portaient le récit, ils étaient un peu des bons acteurs, ils sont un peu incarnés, ils ont une histoire et tout. Là franchement le prêtre, tu m'étonnes qu'il l'ait buté entre la nonne 1 et 2, c'est que tu t'en contrefous. Pourquoi ne pas avoir bâti le film juste sur la nonne? Elle arrive, elle est envoyée, éventuellement avec une autre bonne sœur, mais le fait qu'il y a un prêtre qui est pas intéressant, qui a son propre trauma, avec un énième gamin démoniaque qui sort des ombres et des de sous les bancs,
ça,
qu'est-ce
plus,
que c'est nul.
Ça fait forcément penser à l'Exorciste, ben ouais, et non, c'est... non, non.
Vraiment c'est tellement inintéressant. Et quand t'arrives à la fin du film, là t'as tout cette espèce de grand final dans une espèce de piscine là de Mardo où en fait elle a bouffé le sang du Christ, elle l'a dans sa bouche et elle lui jette à la gueule comme une faciale ratée quoi. C'est vraiment genre attention, j'ai c'est non mais c'est genre ça devient ridicule ce truc quoi. C'est vraiment
le boucaquet du mal.
Ah ouais, la nonne 3. La malédiction du boucaquet de Saint Lucien.
Je vous demande de vous arrêter là, ça suffit.
Non mais ça devient ridicule parce que à ce moment-là, la seule concrétisation du climax et de l'anéantissement du mal, ça devient vraiment littéralement un tourbillon du mal avec elle qui s'évanouit. Ça devient une espèce de spectacle ultra cheap qui est vraiment la version plus cheap que celle de Conjuring 2 où la nonne commençait à exploser, à se réduire à néant. Vraiment, voilà, c'est nul. Quoi. Je n'ai plus de mots et c'est marrant, ils ont copié ça dans La Nonne 2 en pire. Quoi. C'est
ouais,
vraiment
mais
le même
vois,
modèle. Quoi.
En fait, ces films-là ne savent jamais comment finir. En fait, hein. Les effets finaux, c'est toujours ce qui les plante. En fait. Et dès le premier que j'aime, voilà, en termes de poser une ambiance, poser des figures, des images, tout ça, ils sont à peu près là, ils font le taf jusqu'au bout. Mais par contre, plus ça va, plus ils ne savent pas les finir les films. Et en plus, plus ils ne savent pas les finir tôt dans le film.
Tout à fait vrai.
Est-ce qu'on passe maintenant au pire de tout ça, la malédiction de la dame blanche
là, c'est
parce que c'est un peu la bonne continuation.
Il faut quand même préciser que La Nonne 2, parce que je pense qu'on n'a pas souligné à quel point c'est un carton, parce qu'il faut savoir que dans certains pays, c'est le plus gros succès d'un film d'horreur ever. Genre au Brésil et en Indonésie, c'est le plus gros succès de l'histoire du pays en termes des films qui sont arrivés là-bas en film d'horreur.
Est-ce que c'est pas des pays qui sont très cathos?
Je
non, en plus, c'est vrai, parce que souvent.
C'est vrai que le Brésil, je pense, c'est un pays très catholique.
Quand tu vois des analyses du business, souvent ils disent qu'il y a des endroits où certains sujets marchent vraiment bien parce que c'est ancré dans la culture et c'est même pas un jugement sur la culture, c'est juste ça résonne, quoi. Vraiment, c'est une image qui est très chargée de sens.
Non, mais
du coup, c'est intéressant.
C'est pas de la non-exploitation au sens bis du terme des années 70, quoi. C'est pas les diables, tu vois, c'est pas Ken Russell, mais. Je pense qu'il y a vraiment une forme d'exploitation autour de la mythologie catholique qui est là, attend un paroxysme qui leur plaît bien. Hein. C'est peut-être aussi pour ça, tu vois, tu demandais tout à l'heure pourquoi ils continuent avec cette idée-là. Oui. Voilà. Mais oui, la Dame Blanche, du coup.
Bon alors, est-ce que c'est Conjuring ou pas? Qui a la bonne réponse là-dessus?
Le film n'a pas été tourné comme un film Conjuring à la base, c'est juste produit par Atomic Monster, je crois, enfin la boîte de James Wan, donc réalisé par ce monsieur Chavez. D'ailleurs, ça n'a pas un budget, ça a 9 millions de budget, ce qui est en dessous des budgets à ce moment-là de la saga, et aurait été rajouté en reshoot, une référence à Annabelle, et toute la partie où tous les liens en gros qui avec le qui sont assez fins finalement, il y a pas grand chose.
Il y a une image, le truc moi qui du coup qui fait un peu basculer le film pour moi, c'est qu'il y a quand même, ils ont rajouté même si c'est fait à la truelle et que c'est moche au possible, une image d'Annabelle quoi, elle est physiquement présente dans le film.
Le film sort et tout le monde le prend comme un film du Conjuringverse pour ses raisons et cause de la promo, hein, qui n'a pas hésité à forcer le parallèle.
Voilà, c'était marqué sur l'affiche par les producteurs de Conjuring.
Oui,
donc,
voilà. Et le réalisateur, donc Michael Chavez, a ensuite pris la parole en expliquant que techniquement ce n'est pas dans l'univers Conjuring, c'est pas canon comme on dit, parce que en fait il n'y a pas toute l'équipe de Conjuring et du coup il se sent mal de vouloir s'accaparer leur travail. Bon,
parce qu'il manque le producteur Peter Safran qui est là sur tous les films.
Bah, en tout cas, Safran lui a confirmé que il a dit dans une interview: You don't count this down, tu ne le comptes pas dans l'univers Conjuring. Mais bon, et le réal, lui, disait que quand ils avaient mais pour moi c'est vraiment du bullshit promo. Quand ils ont mis Annabelle dedans, c'était une sorte de clin d'œil,
comme
dans Indiana Jones quand ils mettent R2-D2 dans les pyramides, sauf que c'est tellement lourd et c'est tellement avec une volonté de corréler tous les films dans une logique d'extension d'univers que ça ne trompe personne.
Oui. Parce que tu vois, c'est pas genre le crâne d'Alien à la fin de Predator 2, c'est pas un clin d'œil qui est là pour les gens attentifs. Là, c'est un personnage de Annabelle 1 qui apparaît et qui parle à l'héroïne. Donc tu te dis, mais c'est un prêtre. Et il raconte qu'il a eu une expérience avec une poupée. Tu te dis, mais attends, c'est pas un hommage. C'est vraiment, vous créez un pont et vous voulez qu'on y pense.
En tout cas, lui dit...
Sinon, tu fous Annabelle dans un coin du décor sans faire un gros plan dessus, à la limite. Oui. Tu peux te dire, c'est un clin d'œil. Mais là...
Lui dit que ce qui a foutu la merde, c'est le moment où ils ont fait l'avant-première au festival South by Southwest, qui est donc un gros festival américain, souvent abrégé SXSW, vous voyez probablement passer. Et en fait, le gars qui a présenté le film a dit The Next Chapter in the Conjuring Universe au moment de présenter le film, à la stupeur des gens qui pensaient voir un random film d'épouvante, ce qu'il est. Et il dit que c'est à partir de là que ça s'est emballé et que la promo, du coup, c'était un peu ambigu. Mais bon, la promo, elle s'est pas privée de faire le lien entre les deux. Et au fond, je veux dire, quoi qu'ils disent, il y a un lien factuel avec Conjuring, il y a un lien promotionnel avec Conjuring, il y a un lien narratif avec Conjuring, c'est un film Conjuring.
Bah ouais, c'est ça.
Il y a un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Peut-être disent-ils ça parce qu'il a moins marché que ses congénères, largement, avec 123 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal avec un budget de 9. Hein.
Oui, surtout pour un film de merde comme ça.
Voilà, et Safran lui dit non, c'est pas un film Conjuring, mais bon, on était quand même contents de ce qu'a fait Michael, donc le réalisateur, et ils ont dit on l'a piqué. Bon, c'est devenu le Yes Man de la franchise, hein, parce qu'après, il a fait La Nonne 2 et Conjuring 3,
mais
deux grands films.
Pourquoi lui? Pourquoi?
Bah, ça me rappelle un peu
la définition du Yes Man. Hein,
ça me rappelle un peu la manière dont les films Cloverfield ont été faits. Que le deuxième film 10 Cloverfield Lane a été rajouté en production, ils ont rajouté des trucs pour officiellement l'inclure dans le Conjuring.
L'inclure et une saga in extremis.
Voilà.
J'aimais cette idée que Hollywood a peur de ne plus faire de films de franchise au point de paniquer à quelques mois de la sortie du film et de se dire à quelle franchise on pourrait le raccorder. On a quoi dans nos catalogues
Justice League. Non. Donc comment on peut résumer la malédiction de la Dame Blanche, qui est une énième histoire random de une assistante sociale qui se retrouve à aider des gamins qui sont sous le joug d'une mère qui a l'air un peu tarée. La mère a dit je les protège, les faites pas sortir. Elle les fait sortir, du coup il y a une Dame Blanche fantomatique qui vient les buter, et après la Dame Blanche en prend à ses gamins parce que cette Dame Blanche a tué ses propres enfants et court après les enfants des autres et apparaît derrière la moindre surface réfléchissante. Quand tu te retournes, elle est là, tu ouvres une porte, elle est là, tu regardes sur le lit, elle est là, tu regardes, tu soulèves la bâton des chiottes, elle doit être là sûrement, elle est là partout, et à chaque fois c'est un
jumpscare. C'est ça qu'on veut voir. Non, mais donc, concrètement, elle est dans tous les contre-champs. Voilà, c'est pas compliqué.
Mais pour le coup, vraiment, on glisse dans les CGI dégueulasses parce que l'image, à un moment, t'as un parapluie transparent et t'as le gamin qui soulève et rabaisse le parapluie. Elle apparaît, elle disparaît. L'idée, pourquoi pas, mais le rendu est tellement. La mise en scène, en fait, est tellement bof que tu vois vraiment l'effet numérique rajouté. Et tu comprends pas quelle est la zone de tension. Tu te dis, en fait, c'est juste c'est un gif, en fait, le truc. Tu vois, c'est rien de plus. Et ça joue ça constamment.
Donc, la mise en scène est moins bof que Coupable d'atteinte à ta vie, tellement elle. Non, mais ce genre de films, ils sont physiquement difficiles à suivre, non? Enfin, je veux dire, c'est tellement surdécoupé en jumpscare tous les 14 secondes que. Enfin, c'est pas de la peur, c'est juste. Taper sur le système, mais d'un.
C'est une expérience médicale.
Littéralement,
je pense,
taper sur le système.
Ton
système nerveux, ils le prennent et le tabassent.
Ouais, c'est
quoi.
Ça.
Ouais. C'est la folie.
C'est comme les petits coups de marteau dans ton genou, là.
C'est exactement ça.
Mais toutes les 8 minutes,
c'est
il fait
exactement ça.
Ouais.
Mais moi, ça m'a rappelé les grandes heures. Il y a peu de films qui me font ça, mais ça m'a rappelé les grandes heures de Resident Evil chapitre final, où le montage, il est tellement dégueulasse, il en veut tellement à ta rétine, qu'à la fin, t'es en mode, mais que ça s'arrête. S'il vous plaît, que ça s'arrête. Arrêtez de me torturer.
Je préfère revoir Resident Evil chapitre final que la malédiction de la nonne blanche, j'allais dire.
Ça me fait penser. Enfin, j'en viens à me demander si en fait ce genre de film est pas pensé pour le cinéma, mais pour la VOD après, ou tu vois, en prenant en compte le fait que les gens vont le regarder en étant à moitié sur leur portable, dans un cadre tu vois, où l'écran sera pas forcément très grand, ils seront pas forcément plongés dans le noir, parce que c'est vrai que c'est pas pensé finalement pour une vision cinéma, ce genre de découpage et de
c'est juste un système. Après le sound design, on a pas parlé, mais qui est souvent comme dans les films qui ont été la vague post-Conjuring et les films du Conjuringverse démocratisaient quand même pas mal ce sound design, mais agressif à mort, ou qui vraiment t'éclate les oreilles. D'ailleurs, quand tu regardes du coup en DVD ou en VOD ou ce genre de truc, enfin, ça t'arrive souvent quand même de devoir monter et descendre le volume parce qu'ils optimisent ça pour que vraiment ça te déchire les tympans quand il y a un jumpscare, parce qu'ils ont peur que si les gens sursautent pas, ils puissent pas considérer que ça fait peur, étant donné que c'est leur définition.
De ton téléphone régulièrement. C'est ça. Apparu. Ah, dans le bain.
C'est ça, c'est leur définition de la terreur, c'est le nombre de fois que tu vas sauter sur ton siège, quoi. Ouais. Du coup, bah, le sound design est en devient, je trouve, des fois ridicule. Enfin, dans la maison de Madame Blanche, c'est ridicule, c'est même pas bien mixé, c'est juste n'importe quoi. Mm. Enfin, on s'est moqué de Nolan pour ça avec Tenet. Bon, j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais en tout cas, les films d'épouvante de ce style-là, c'est aussi quelque chose, quoi.
Et je trouve qu'il y aura toutes les choses les plus élémentaires, notamment installer l'histoire d'une famille, installer un personnage féminin. Linda Cardellini, c'est une bonne actrice, hein. Mm. Mais
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Son personnage est tellement inintéressant, l'histoire de ses gamins, tu t'en contrefous. Ouais. Et je trouve que le film, pour le coup, il est mal raconté. Tu ne sens pas d'évolution, tu sens pas d'étape, t'as l'impression que c'est constamment, on rejoue la dame blanche qui va apparaître, elle va apparaître, elle va apparaître, jusqu'à un climax avec un prêtre dans le grenier, et la nonne blanche, la dame blanche, bordel de merde, la dame blanche s'évanouit dans un tourbillon de liquide noir, et elle explose, et le crucifix retombe. Donc c'est vraiment la compilation de tous les pires trucs de la saga, et je trouve que tu vois, émotionnellement, alors je suis pas spécialement attaché aux Warren ni aux familles qu'ils ont dans les deux premiers Conjuring, mais il y a des moments où tu crois au personnage, tu t'attaches un peu aux gamins. Dans Annabelle 2, les gamines, tu vois, il y a dans Annabelle 2, quand les deux gamines sont présentées, la relation entre les deux sœurs, le fait qu'une soit handicapée et tout, je trouve que c'est touchant, tu vois, ça fait appel, ça active des cases très simples, très primaires, mais ça active des cases. Dans La Dame Blanche, c'est encéphalogramme plat, c'est inintéressant au possible. Même la nonne qu'ils essayent beaucoup plus que les autres d'incarner émotionnellement à la fin, en lui montrant le médaillon, la photo, son passé, et tu te dis en fait il y a une femme derrière la dame blanche, c'est inintéressant au possible, c'est plat quoi.
Il y a tu sais la scène au début où on voit que donc la mère elle lave les cheveux de sa gamine dans la baignoire, et tu sais donc c'est pareil, un énième fusil de Tchekhov qui sera réutilisé plus tard, où là t'as un petit peu l'impression que ça essaie d'établir un rituel entre elles, un truc un peu mignon, un peu de vie, mais bon déjà le décor et la photographie sont tellement pauvres que tu crois pas du tout un instant que c'est un peu chaleureux, un peu voilà, un instant vrai entre elles. Et en plus, tu sens aussi très bien que c'est quelque chose qui va être réutilisé plus tard pour faire peur, entre guillemets. Donc ça marche pas, tu vois. Donc effectivement, ouais. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, on a un casting qui est pas si nul. Après, moi, je me permettrais de sauver une ou deux images, juste.
Oh, c'est pas possible. Non, qu'est-ce qu'elle va sauver ?
Le film est nul, le film est nul, on est d'accord. Mais moi, j'avoue que les images de mariée, j'ai pas compris pourquoi elle était en mariée avec un voile de mariée et tout, parce que bon, c'est pas son mariage.
C'est des meufs qui se tiennent toutes droites avec des voiles. C'est que ça depuis le début.
Oui,
de la saga.
Mais ça, moi, tu vois, j'y tiens toujours. J'adore ça. Je sais que c'est hyper galvaudé, mais vraiment, à chaque fois, ça me plonge dans ces couloirs de la maison hantée à Disneyland Paris, et où t'as des images de mariée qui passent dans les couloirs, dans des miroirs, elles apparaissent et disparaissent. Je veux vivre là-dedans, moi j'adore ça. Donc
mais
voilà.
Moi je trouve le problème en plus que ça crée, c'est que dans Annabelle 3, tu as une mariée. Donc moi j'arrête pas de me dire, mais pourquoi ils ont pas relié les deux en disant que c'était la même, ou que c'est la robe est hantée, je sais pas quoi. Moi j'arrête pas de me dire, mais attends, il y a une dame blanche en robe de mariée avec un voile, et il y a une mariée dans Annabelle 3, et c'est... Personne n'en parle, c'est pas lié.
Oui.
C'est complètement absurde.
Ah bah complètement, surtout qu'en plus dans Annabelle 3, oui, elle, c'est pareil, elle a un peu rien à faire là.
Bah,
donc
elle
c'est
aussi nulle que ça, quoi.
C'est vraiment histoire de dire on met une meuf en robe blanche, quoi. Ouais. Mais bon, et du coup, là, une image que je trouvais pas si mal réussie quand les gamins ils sont mis à l'espèce d'hospice là où je sais pas quoi pour les protéger une nuit quand ils sont séparés de leur mère, les premiers, et qui sortent dans les couloirs la nuit là. Alors même si on a du mal à croire que vraiment ils mettent des gamins dans ce genre, enfin les couloirs ils sont éclairés en vert pisseux et tout, genre c'est super glauque, genre ouais c'est génial. Et t'as le plan dans le miroir qui fait l'angle du couloir là où tu devines la silhouette de la dame blanche. C'est pareil, c'est complètement The Jane Doe Identity, mais ça fonctionne aussi quand même plus ou moins. Je trouve que l'apparition est assez bon et pas trop mal. En tout cas c'est au début du film. Et quand ça commence comme ça, je me dis, ah bon, pourquoi pas? C'est pas au top du top, mais c'est pas mal. Et à un moment donné, quand ils sont dans la maison, et que la mère, elle commence pour les premières fois à voir le spectre de la dame blanche, et qu'en fait, elle voit qu'il y a la porte de la chambre de sa fille qui commence à se refermer doucement, et qu'il y a le miroir, du coup, sur la porte de la chambre, et qui fait apparaître forcément la dame blanche. C'est hyper attendu, mais là, c'est pareil, c'est tellement les apparitions, encore une fois, de la maison hantée de Disneyland. Enfin, moi, j'adore ce genre d'imaginaire, et d'imagerie, et là, je trouve que c'est pas mal rendu, et. Bon, ça sauve pas le film, on est d'accord, c'est sûr. Mais bon, ça m'a donné ma petite dose de meuf en robe blanche fantomatique.
C'est marrant ce que tu dis. J'ai l'impression qu'on arrive à un moment où l'influence de The Jane Doe Identity est palpable chez Chavez. Et dans Conjuring 3, il y a une séquence qui reprend quasiment... Enfin, pas exactement le principe, mais voilà.
Bah oui.
qui, 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 mm. Ce film a marqué les cinéastes américains qui se sont dit comment on pourrait piquer le concept et l'incorporer à tous nos films de merde.
Ouais. Et un truc aussi qui est un problème pour moi dans La Dame Blanche, c'est que je ne comprends pas quels sont les pouvoirs et les capacités de cette femme qui apparaît tout le temps. On dirait que son but, c'est d'apparaître et de faire sursauter les gamins et de ne pas les toucher, de ne pas les buter ou quoi que ce soit. Et en fait, contrairement au Conjuring, ils ne peuvent faire reposer la peur que sur elle. Donc en fait, elle ne fait que apparaître. Elle apparaît au moins 25 fois avant de faire quoi que ce soit. Donc je me dis, mais comment je peux avoir peur de ce farfadé qui est juste là comme un pantin derrière la porte? Et là, c'est là qu'en fait t'es obligé de voir les coutures. Je sais que c'est une mécanique de film d'horreur, il faut que tu joues la peur, et évidemment s'il arrive et t'éventre dès la première apparition, ok, bah il est efficace certes, mais du coup il y a plus de film, quoi. Et là vraiment ils tirent trop sur la corde, ils ont que la Dame Blanche, et elle apparaît dans tous les reflets de chaque scène, quoi, du début à la fin, ça ne s'arrête pas. Donc déjà au bout d'un moment tu satures, en fait t'es plus du tout sensible à l'apparition, tu commences au fur et à mesure à voir trop près les traits, donc c'est de moins en moins effrayant parce que tu vois juste que c'est un truc numérique dégueulasse ou une figurante avec une perruque, et puis tu comprends pas ce qu'elle fait, en fait. Moi je trouve que la mythologie de la Dame Blanche n'a aucun sens, et
d'autant que ce n'est pas la mythologie de la Dame Blanche, parce qu'il y a quand même
un truc à spécifier,
c'est que là il n'y a pas de mal, au moins dans le titre français, tu vois, mais oui, parce qu'à la base le film s'appelle The Curse of la Llorona, j'arrive jamais à le dire, c'est ça,
Llorona,
qui veut dire la pleureuse, c'est ça, je crois, et c'est une légende mexicaine, ma foi, pas inintéressante, mais en fait en français ils se sont dit, après tout, pourquoi ne pas relier ça avec une légende beaucoup plus locale, parce que ça va faire plus venir les gens, quitte à non seulement changer le titre, mais carrément changer les sous-titres d'ailleurs, dans la version sous-titrée.
Ça n'a plus de sens, ouais.
Ce qui prouve également que les démons du Conjuringverse sont absolument interchangeables, car ça pourrait être n'importe quoi d'autre, que ce serait la même chose, voilà.
Bon, passons à autre chose, parce que quand même c'est inintéressant ce truc-là. Conjuring 3, je sais que... Donc Conjuring 3 qui est arrivé en 2021, donc il y a eu la Dame Blanche, on était en 2019, après il y a eu Annabelle 3 en 2019, la même année, donc la même année de films du Conjuringverse avec une femme en robe de mariée, voilà. Et en 2021, on arrive à Conjuring 3, le premier Conjuring qui n'est pas réalisé par James Wan. Alors globalement, c'est un film qui est considéré, il est sorti en pleine pandémie, donc ça a un peu abîmé sa carrière, d'un point de vue business, c'est un peu un cas particulier, il est sorti en SVOD en même temps que la sortie cinéma, donc un score moindre, mais quand même pas dégueulasse vu les conditions. Mais c'est un film qui est considéré comme un peu moins bien, voire beaucoup moins bien. Je sais que vous l'aimez pas trop et vous êtes un peu aligné sur ce que les gens pensent de ce Conjuring, qui est vraiment moins intéressant.
Ouais. Voire très mauvais, non?
Voire très mauvais. Toi, tu trouves vraiment archi... Et pourquoi tu le trouves très mauvais?
Moi, je trouve... C'est un peu... Attention, je tourne les nouvelles comparaisons hollywoodiennes de merde. C'est le Jurassic World 3 de la saga Conjuring.
Ouh.
C'est-à-dire que les mecs te promettent un truc original. Enfin, on s'attaque à Monsieur Arne, je sais plus comment il s'appelle là. Le gars qui... Un cas avéré. Du premier mec de l'histoire du droit américain qui a plaidé la possession démoniaque au tribunal. La promo de Finir Ouaté, un film de procès, plus ou moins.
Et c'est vachement bien, les films de procès.
Et les films de procès, on aime ça. Non mais au moins, tu vois, c'est original. Là, le titre américain, c'est The Devil Made Me Do It. Je suis très nul en anglais, vous auriez compris.
Le diable m'a forcé à le faire.
Voilà, ce qui... Et c'est l'annonce du film, c'est ce qui te promet, c'est-à-dire un truc fascinant qui est comment tu prouves juridiquement l'existence du diable et qui encapsule toutes les thématiques qu'il y a autour des Warren, de ce qu'ils représentent pour le spectacle américain, de comment ils se sont fait débunker, comment ils ont répondu à ça, etc. Passionnant. Et franchement, je trouve que ça démarre pas si mal. Et à la moitié du film, ils font... Ouais, non, mais en fait, ça devient un peu trop intéressant. Ça vous dit, on retourne dans une maison nulle et on remet des jumpscares avec des portes qui claquent. Et voilà. Et il laisse tomber le personnage. Il n'existe plus. Moi, je pense qu'il y a une raison, c'est que le procès dans la vraie vie, il l'a perdu, donc ça les arrangeait pas trop.
Évidemment.
Mais quand même, je sais pas à quel point tu peux avoir la flemme de raconter quoi que ce soit. D'autant que là, on n'est pas sur les spin-offs pourris où tout le monde sait que c'est plus ou moins de l'exploitation mercantile. Je veux dire, les Conjuring sont quand même relativement appréciés par... dans les gens qui aiment beaucoup le cinéma d'épouvante, etc., en général, quand ils doivent en sauver dans la saga, c'est les Conjuring. Tout le monde aime James Wan, voilà. Pourquoi il a fallu qu'il salope ça comme ça, alors qu'il partait très bien, et qu'en plus... Le film a des qualités, notamment à la photo, que je trouve plutôt belle, quelques références amusantes, mais pourquoi il a fallu qu'ils aillent se planter à ce point-là? C'est juste la désosse totale, et ce qui pour moi représente finalement le problème numéro, enfin un des problèmes de cette franchise, qui est la bonne idée, pas exploitée, mais alors la poussée, enfin c'est un peu comme Annabelle 3, quoi, c'est poussé à un niveau stratosphérique.
D'ailleurs, je trouve ça drôle parce qu'à un moment, il parle avec l'avocate et elle rigole au nez en disant « Non mais comment vous voulez qu'on prouve ça? Ça n'a jamais été prouvé. » Et ils lui disent « Bah venez chez nous, on passe une soirée, on vous montre notre pièce. » Et en fait, je me suis dit « Tiens, c'est marrant, ils vont le montrer. En fait, t'as une ellipse tu la retrouves après dans la salle, dans le tribunal, et elle est genre, tu vois, sur, ils la font surjouer, genre elle est traumatisée du truc de la veille, donc tu te dis, ok, en fait, ils ont encapsulé là dans l'ellipse, ce qui était censé être le sujet du film, comment Exactement. Tu convaincs les gens ouais. En fait, là, c'est genre, bah, évidemment, tape sur l'épaule, tu sais que c'est vrai, pas besoin de te montrer.
Exactement. Bah,
je crois que c'était le sujet du film, en fait.
Ouais, ouais, non, et moi, ce que je trouve terrible là-dedans, c'est effectivement ça. Pourtant, moi, pour le coup, j'avais bien aimé L'Exorcisme d'Emily Rose, donc un des rares films d'exorcisme que j'aime bien, et qui est tout le principe, justement, c'est vraiment un film de procès avec, bon, pour le coup, un montage alterné avec le passé de la jeune femme qui est morte et donc la mort enfin dont la mort donne lieu à ce procès et où là il s'agit plutôt de prouver l'existence de Dieu enfin et donc aussi du diable et c'était plutôt bien fait. Pour moi c'est un film vraiment pas mal malgré tout, et donc là je m'attendais un peu à la même chose et pour le coup le film de procès aurait vraiment été l'occasion de vraiment secouer un peu la saga et rafraîchir le truc et rapporter plein de nouveautés, et c'était important je pense parce que encore une fois là c'est tiré d'une histoire vraie donc comme les précédents vous allez me dire, mais là encore une fois il y a un mec qui est mort quoi, il y a un mec qui s'est fait assassiné par le type qui est jugé et ce type a effectivement perdu son procès et donc il a vraisemblablement assassiné ce type sur une pauvre histoire de jalousie à la con et là on est en train d'essayer de le sauver en disant oh mais non le pauvre il était possédé, et comme le film prend complètement parti et ne laisse pas place à l'interprétation, le message du film c'est qu'effectivement le mec était possédé et que c'est vraiment pas sa faute s'il a tué le gars. Enfin,
en plus c'est intéressant parce que au départ James Wan après Conjuring 2 avait teasé quand on lui posait des questions qu'est-ce que pourrait être Conjuring 3, il avait dit pourquoi pas un film de loup-garou, parce que les Warren ont été confrontés à un moment à une histoire de loup-garou et moi, je me souviens à l'époque on disait tous ok c'est un film de loup-garou trop bien, vous renouvelez, j'en peux plus des gens qui sont secoués sur leur rocking chair là, et au final ils ont fait un film qui prend un peu le contre-pied de ça. Et alors moi pour le coup je suis d'accord sur le fait que le film de procès aurait été intéressant. Néanmoins, j'aime plutôt bien la dernière partie du film, le fait de déplacer en fait de. Il voulait pas refaire une maison hantée. Et merci, Dieu merci, comme diraient les Warren. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, le démon n'est plus un truc qui frappe au hasard d'une maison qui tombe sur une famille, un peu comme le couperet du destin de merde. Il fallait pas emménager là. Là, c'est quelqu'un de malveillant, une sataniste qui se dit ok, je veux être pote avec un démon. Du coup, je vais faire un rituel avec trois personnes à tuer, chacun qui doit correspondre à une sorte de, je sais pas, de case différente. Et je trouve ça assez amusant dans la dernière partie quand tu te rends compte de cette figure. Mais d'ailleurs, ça te fait pas peur, Judith, cette femme qui se tient immobile au bout d'un couloir pendant deux ou trois plans. Tu devrais adorer.
Non, parce qu'on sent que c'est une vraie meuf. C'est.
Enfin... Ok. C'est
un peu sexiste. Elle a pas de châle. Elle a pas de voile.
De châle.
Oui. Mais je trouve qu'il y a pas mal de scènes dans la dernière partie qui sont amusantes. Notamment quand il se retrouve dans le dédale pour aller à son hôtel qu'il faut absolument détruire. Il y a un moment, il rejoue effectivement le Annabelle 1 où lui, il descend dans les souterrain pour retrouver Lorraine et il voit Lorraine courir dans le couloir, il y a des douches de lumière et en fait en passant dans l'obscurité tu te rends compte que c'était une hallucination et que c'est la sataniste qui arrive et lui pouffe une poudre des enfers au nez. Et il y a un moment où la sataniste essaye d'étrangler Lorraine et comme ils ont une connexion un peu chelou en fait tu vois le regard de l'autre, donc elle se voit quasiment être tuée en direct avec les mains de l'autre. Et je crois qu'il y a une scène dans Strange Days de Catherine Bigelow qui joue pas mal là-dessus, non ? Il donne le casque de la personne,
Absolument,
ça m'a fait penser à ça.
Mais c'est beaucoup plus cloque que dans Strange Days.
Pour le coup. Puis... Strange Days est mieux que Conjuring 3, je crois qu'on peut le dire.
Message
Et globalement, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, moi, le seul truc que je trouve rafraîchissant, c'est qu'il sort de la maison hantée. Donc le côté un peu film d'enquête m'amuse un peu. Et surtout, il y a des décors en extérieur, tu passes un peu en forêt, il y a la visite des maisons, du coup, il passe dans une maison, tu te dis est-ce que c'est lui le mec, le père de la sataniste, l'ancien prêtre qui est l'ennemi, ils y reviennent, il y a des trucs, ça donne un peu d'oxygène à ce truc qui tourne en rond parce que tu peux pas filmer un couloir 45 fois et des escaliers 45 fois et attendre qu'on tremble comme la première fois.
Ouais mais c'est le même problème, enfin encore une fois sur le papier sataniste, ouais mais non en fait, enfin, c'est la même chose que d'habitude juste elle est sataniste. Enfin, franchement, ça change pas grand-chose.
Bah, et alors moi, je suis d'accord, tu vois, qu'il y a deux trois trucs comme ça qui sont à retenir, mais et notamment la performance de John Noble, ce qu'on voit très très peu, mais donc qui joue le père du coup de la sataniste, qui est un petit peu trop bien pour son rôle et pour le peu qu'on le voit,
ça,
et voilà, donc c'est un peu dommage. Mais bref, ça donne toujours un petit côté un peu quali. Par contre, moi, je suis 100% allergique aux flashbacks de manière générale dans le cinéma, à part quelques exceptions. Là, vraiment, les flashbacks de eux jeunes qui s'aiment et qui s'embrassent dans le kiosque. Oh là là, moi c'est vraiment
Qu'est-ce
le truc, je dis c'est bon, j'arrête là, j'arrête d'acheter, je stoppe.
Mais tu fais pas comme tu disais dans le livre de film tout à l'heure, tu fais « nanana, je vois plus, j'entends plus
oui. !» Non, les flashbacks, j'avoue que c'est vraiment mon combat.
Et c'est d'autant plus nul que c'est un énorme mensonge. Est-ce qu'on pourrait pas embrayer sur
oui,
les Warren.
L'histoire des Warren.
qui sont les Warren.
Raconte-nous, Mathieu.
Raconte-nous, Père Castor, chose. Qui sont les Warren.
En fait, moi, j'ai un problème aussi à la saga, à partir du 2, pour une raison très précise, c'est qu'à part... En fait, c'est juste après le 1 que les gens qui ont fait ce film savaient qu'il y avait un truc qui allait pas. Enfin, qu'ils le savaient vraiment. Bon, je vais pas revenir sur le debunk de leurs affaires. Je pense qu'il y a déjà 300 podcasts spécialisés dans l'histoire qui doivent en parler très clairement. Mais bon, Amityville, etc. Mais évidemment que c'est pas vrai et que ça a été prouvé.
Quoi
mais...
Je pense que c'est un démon qui fait parler Mathieu, là.
Oui,
juste
je
pour
pense.
Se couvrir.
Crois en Dieu, Mathieu.
Désolé, Judith. On peut aussi revenir sur le fait qu'il est quand même relativement avéré que ce sont des gens qui, comment dire, sont plus intéressés par la thune qu'ils sont fait avec... qu'ils ont fait plutôt que les affaires elles-mêmes.
Parce ouais, ils sont pas là pour sauver les gens, mais avoir de l'argent.
Il y a notamment un auteur, je sais plus comment il s'appelle, mais il avait écrit un livre dont a été adapté un des films qui s'intéresse à une des affaires des Warren. Il avait rencontré Ed Warren, et Ed Warren lui avait dit, je crois, les gens qui viennent nous voir sont fous, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir, inventer quelque chose, c'est pour ça qu'on vous a engagé. Donc bon, voilà. Mais il y a surtout un magnifique article de The Hollywood Reporter que c'est hallucinant qu'il n'ait pas été relayé en boucle, où en fait, eux, ils se sont intéressés, enfin, ils ont eu accès à des documents juridiques qui traînaient chez Warner et chez New Line, et notamment le témoignage de quelqu'un qui a témoigné sous serment, donc. Alors, c'est pas un procès, mais elle a témoigné de façon juridique. Eux-mêmes sont pas sûrs, parce qu'en fait, ils ont des documents, mais ils ont pas exactement la manière dont ils se sont... occupé, une personne qui s'appelle Judith Penney et qui a vécu 40 ans chez les Warren depuis ses 15 ans et qui entretenait une relation amoureuse depuis ses 15 ans avec Ed Warren, notamment.
Ah, bonne ambiance.
Très très bonne ambiance. Ouais. Son témoignage est hallucinant. Donc ça, c'est au début des années 1960. Lui, il a la grosse trentaine et elle a donc 15 ans. Ils ont des relations sexuelles. C'est autorisé par Lorraine Warren.
Ne faites pas ça chez vous.
Ne faites pas ça chez vous. Alors au début, elle logeait en face de leur chambre. Et ensuite, ils ont aménagé un petit appartement au-dessus. Et le témoignage dit que, en gros, ils dormaient en bas, en haut, en fonction de...
Des envies du moment.
Des envies du moment, voilà. Alors, voilà, c'est selon les avocats de Lorraine Warren, parce que Ed est mort à ce moment-là, c'est... quelqu'un qui les poursuit pour des profits juridiquement, qui a monté ce témoignage, parce que c'est une vendetta en fait contre New Line, mais il y a quand même beaucoup de détails. Alors on apprend par exemple qu'en mai 78, elle est tombée enceinte et que Lorraine Warren l'a forcée à avorter et lui demandant d'expliquer qu'elle s'était violée et que du coup elle devait avorter pour ça, sachant que quand ils sont allés chercher à l'hôpital direct, ils ne sont même pas restés avec elle, ils sont allés à une conférence, selon son témoignage. Je rigole, mais c'est horrible, hein. Selon son témoignage. Voilà, donc tout ça c'est selon son témoignage, hein, de cette personne qui avait de très bonnes relations avec Ed avant qu'il décède. Bon, par contre, elle a plus l'air d'être en très bonne relation avec Lorraine. Bon, alors à propos de Lorraine, justement, elle a dit, je cite, que son vrai dieu c'est l'argent.
Sans blague.
Voilà. Elle raconte
mais
aussi.
Ça fait moins bien en conclusion des films.
Ah ouais, c'est sûr.
J'ai froid en l'argent. Trop drôle. Tu ne peux rien.
Elle raconte aussi que Ed l'a frappé au point de la faire perdre connaissance, donc Lorraine.
Ambiance.
Voilà. Alors cette femme, Judith Penney, c'est elle aussi qui est sous le drap dans une des vidéos de preuve de possession d'une dame blanche, justement,
oh là là.
Tournée par Ed Warren. Alors tout ça, c'est renié par les avocats et par les beaux-fils et belles-filles des Warren, qui néanmoins, selon un autre témoignage d'un proche de la famille, ne vivait pas avec les Warren, parce que la seule personne qui a vécu vraiment avec eux, bah, c'est cette personne en fait. Voilà, alors eux prétendent qu'ils l'ont recueillie parce qu'elle était pauvre, qu'ils se sont occupés d'elle, etc.
Oh, trop mignon, trop généreux.
Et du coup, oui, ils savaient, parce que tu vois, Tony de Rosa Grund, dont on parlait, qui est donc la personne qui parlait avec les Warren et qui a plus ou moins lancé la saga.
Ouais.
Et bah lui, en fait, il y a un proche qui lui a parlé après avoir vu le film, le premier Conjuring, et qui lui a dit, en fait, votre vision de leur couple, là, c'est un peu compliqué, quoi. Et donc lui, il a envoyé une lettre assez chargée à New Line et Warner pour leur expliquer qu'il avait assuré à cette personne qu'il allait au moins tempérer la vision du couple Warren dans les suites, quoi. Sauf qu'en fait, lui, il est déjà en litige avec Warren parce qu'il s'est fait un peu dégager des suites et des spin-offs, et que du coup, il veut un intérêt sur profit, quoi. Et donc voilà, en 2015, il y a aussi une lettre à New Line qui a été écrite par un avocat qui s'appelle Sanford Dow. Alors, ils ne savent pas exactement dans quel camp il est, mais ils ont vu la lettre qui les a aussi menacés d'aller en justice par rapport à ça. Et New Line leur a proposé un deal qui est censé régler cette affaire-là, l'affaire de Judith Penney, et une autre affaire qui est celle d'un mec qui s'appelle Gerard Brittle et qui est un auteur qui attaque Warner pour 900 millions de dollars parce qu'apparemment ils auraient tout piqué à The Demonologist, qui est un truc qu'ils ont fait avec les Warren et qui a aussi des contacts qui sont d'accord avec tout ça. En gros, voilà. Et donc cette lettre arrive en menace de justice et clairement New Line, je pense qu'ils n'ont pas envie que ça sorte dans les médias parce que cette personne, elle a témoigné sous serment, mais elle n'est pas allée dans les médias. La première fois que ça sort, c'est avec The Hollywood Reporter, donc juste après. Et donc, ils ont proposé à Penney, comme deal, d'acheter les droits de sa vie, comme ils ont acheté ceux de Warren, et 150 000 balles, ce qui est ironiquement le salaire de Lauren Warren pour avoir consulté sur le premier Conjuring. Voilà. Mais finalement, ce truc-là ne s'est pas passé. Enfin, il n'y a pas eu c'est ce qu'ils ont proposé, mais il n'y a pas eu ça. Et dans le rapport de Brittle, donc qui est le gars qui les attaque en justice pour avoir volé son travail, selon lui, Penney donc aurait été prête à témoigner dans un procès contre New Line et Warner, parce que en fait, ce qui leur pose problème, c'est que les faits ne sont pas réels dans les films. Et lui donc les a attaqués par rapport au fait qu'ils ont piqué son bouquin. Et c'est là que ça devient fascinant. Ça devient intéressant par rapport à ça. Warner, leur argument, c'est de dire comment tu peux nous attaquer en justice alors qu'on adapte des faits réels. Et lui, il dit non, mais c'est pas réel du tout. Et il prend cette affaire-là en cause, le fait qu'ils dépeignent comme un genre de couple idéal alors qu'en fait, ça a l'air d'être un putain d'enfer leur histoire. Et que voilà. Donc, moi, j'ai un problème à partir du 2 parce que dans les destinataires des mails qui ont été envoyés à ces gens, il y a à peu près toute la prod de Warner et de New Line qui ils ont bien vu le chèque que leur avait fait premier Conjuring et qu'ils ont décidé de continuer quand même. Et la façon dont ils dépeignent les Warren dans le 2 et surtout dans le 3 devient un peu gerbante, je trouve, à partir de là.
Ah ouais, d'où ?
Il y a le vrai film d'horreur, en fait.
Ouais, carrément.
Parce que c'est que dans le 3, du coup, ils mettent vraiment en avant leur... Depuis le début, Lorraine dit « C'est Dieu qui nous a réunis, on a une mission ». Dans le 3e, lui, il a un problème cardiaque à cause d'un démon. Du coup, pendant tout le film, elle essaie de le protéger. C'est vraiment leur amour et les flashbacks de leur rencontre. Ils jouent vraiment la corde sensible, ils tirent dessus. Ce qu'ils font de plus en plus à chaque épisode de Conjuring.
Ah oui.
Donc, c'est vrai que ça devient un peu lourdingue, tout en étant le terreau lourdingue et nié depuis le début. Hein. Donc, on les présente toujours comme un couple parfait, idéal. Ils sont trop mignons, ils font des blagues et tout. Vraiment, tu te dis, oh, c'est vraiment des jeunes papy et mamie. Enfin, vraiment, ils sont idéaux, quoi.
Et puis, alors, le pouvoir de la foi par des gens qui poussent une femme à avorter après une relation sexuelle.
Une femme, oui, une ado même.
Ouais, ouais, pour le coup, quand ils m'ont poussé à avorter, elle était plus vieille, mais...
Alors ça va.
Donc c'est bon.
Putain, mais c'est dingue, glauque. Ah ouais.
Voilà. Mais bon, selon Hollywood Reporter, ils sont allés voir des juristes qui leur ont dit que techniquement, pour le procès en soi, même si c'est très cynique, à partir du moment où ils mettent à la fin du générique que ça a été dramatisé pour machin, bah, ils sont pas tant que ça en danger par rapport à cette accusation de ne pas avoir respecté quoi que ce soit, quoi.
Ah, mais en termes moraux, c'est fou, tu vois,
par
parce
contre,
que...
moralement, c'est
encore, ne serait-ce que s'ils changeaient les noms des personnages ou quoi, mais vraiment, ils revendent dit que
Et puis chaque film se termine avec au générique vraiment tu vois jusqu'au troisième ils mettent les images
photos,
l'un côté
de
l'autre pour te dire c'est vrai hein, c'est vrai, du coup rajoute une couche de sensation et d'horreur parce que c'est vrai tout ça.
Mais c'est aussi très relié au fait à quel point les studios ont réussi à vraiment imposer leur narratif sur la véracité de ce qu'ils montrent et y compris sur les histoires surnaturelles. Enfin, tu lis des articles, enfin en bossant un peu là, je suis tombé sur un article de Vanity Fair et en fait personne ne questionne quoi que ce soit dans cette histoire parce qu'en fait tout le monde fait le jeu de la promo. On n'est pas les derniers à faire le jeu de la promo pour certains films, évidemment c'est le jeu, tu vois, mais je veux dire c'est bien quand même d'apporter des contrepoints. Et là je lis des articles du genre là ils parlent de cette histoire de loup-garou et ils disent à la fin de l'article ah oui il y aurait des vidéos qui auraient été faites mais on n'allait pas les voir parce que ça fait trop peur. Bah enfin je veux dire quand t'écris dans la presse c'est comme enfin ok que c'est fun le côté surnaturel et tout, mais si tu parles d'une vraie affaire et pas du film, parce que je vais parler du film en croyant ce qui s'y passe, enfin je veux dire ça fait partie du jeu, mais à partir du moment où ton article c'est les vraies affaires des Warren, c'est quand même intéressant d'aller voir à quel moment il y a un problème dans l'histoire en fait.
Bah oui.
Parce que je sais pas, c'est un sujet, non, genre c'est la fiction, c'est voilà.
Mais je trouve qu'ils ont un peu pipé les dés dès le début en mettant Lauren Warren dans la promo. T'as vraiment des interviews croisées, James Wan, Lauren Warren, Vera Farmiga, Lauren Warren, et à chaque fois c'est vraiment la petite mamie trop gentille. J'ai passé des semaines, des jours avec elle, du coup on a pu vraiment s'impliquer, voir la réalité, on a pu parler avec elle et du coup elle donne son avis. T'as vraiment une interview où Vera Farmiga et elle, à la fin ça finit genre my dear, genre elles sont trop mignonnes l'une avec l'autre, elles sont toutes gentilles, on dirait qu'elles sont en train de prier après chaque interview. Donc tu sais, c'est compliqué après d'imaginer des trucs, ils te mettent vraiment devant, mais cette femme existait, elle est trop gentille, regarde, elle a ta mamie, quoi. Juste
même
à
la franchise, c'est un peu partie de l'empire médiatique des Warren, quoi. Enfin, c'est-à-dire, oui. Ouais.
Ma mamie aussi, elle avait vaincu le diable, mais bref.
Pour continuer donc dans le cauchemar, est-ce qu'on reparle de la Nonne 2, puisque donc on a dit voilà, en gros c'est le dernier film en date de l'univers Conjuring. Il y a un Conjuring 4 annoncé, il y a une série télé annoncée. Franchement, vu la gueule de la Nonne 2, on a peur. Et en même temps, vu que la Nonne 2 cartonne de fou et va peut-être dépasser le score du premier, puisque actuellement il est quand même bien placé. Ça va pas s'arrêter de sitôt. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Nonne 2? On peut parler de quelques scènes qui potentiellement auraient pu être bien et pourquoi elles sont ratées, notamment celle du kiosque qui aurait pu être une idée un peu débile mais un peu ludique de des pages, des magazines qui tournent jusqu'à former la nonne. Mais ça rejoint encore sur la même idée de cette fois c'est pas l'ombre qui apparaît, c'est en plus ça dure un peu longtemps et ça devient un peu ridicule.
C'est long, c'est long.
C'est vraiment le potin, c'est la lumière qui tourne jusqu'à ce que tu tombes sur le bon truc. Quoi.
C'est ridicule quand même.
C'est long et puis en plus je trouve que narrativement en plus ça s'inscrit dans rien, ça veut rien dire, ça symbolise rien. Tu vois, donc c'est un peu marrant visuellement, mais tu vois, c'est tellement du vent pour le temps, enfin, c'est le cas de le dire, pour le temps que ça prend. Quoi.
Surtout que moi à ce moment-là, je me dis, mais je comprends pas l'héroïne, elle sait qu'est-ce qu'elle attend en fait. Elle sait que la nonne va apparaître, du coup, elle est comme ça, genre pendant 20 secondes, et tu dis, mais casse-toi en fait. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? La nonne apparaît, la fait sursauter. Et après, elle s'évanouit, ellipse le lendemain. Tu dis encore une fois, mais pourquoi la nonne fait ça? Elle veut te tuer ou pas? Mais si je suis la nonne, moi je te tue.
Elle peut pas tuer les gens qui s'évanouissent en fait.
En fait, on essaie toujours de te dire, il y a un moment, elle essaie de faire cramer l'héroïne pour la vin. Tu dis, mais attends, mais meuf, t'aurais pu la péter en trois depuis le début du film, quoi. Au lieu de lui faire peur, mais piétine-la, éventre-la, quoi. Depuis le début, on dit, faut éventrer les gens, c'est beaucoup plus efficace.
Et c'est encore un film qui clignote. Arrêtez avec les films qui aussi, clignotent. Ouais. J'en peux plus des films qui clignotent.
Il y a un truc un peu drôle, je crois qu'on a tous rigolé dans la salle quand on l'a vu. C'est le moment où elle apparaît dans l'obscurité du couloir dans la cage d'escalier et quand la lumière se rallume elle est imprimée dans le papier peint et en fait ça c'est le bon degré de zéro subtilité au lieu de jouer sur une vague forme où tu pourras la reconnaître, de jouer sur un peu comme dans La Proie du Nombre où ça joue sur les silhouettes de ton quotidien.
Ça, c'est un très bon film, maison.
Quelque chose peut devenir une forme humaine mais c'est pas une forme humaine, mais concentre-toi, regarde, tu vas avoir peur. Là c'est pas une forme humaine, c'est quasiment sa gueule, en fait on dirait qu'elle était maquillée et qu'elle s'est écrasée contre le mur et qu'elle est repartie, du coup t'as sa gueule à moitié imprimée dans le papier peint et t'es censé se dire on dirait la nonne. Non, mais en fait, c'est la nonne. Quelqu'un l'a dessiné au stylo. Donc ça, c'est un peu dommage. Il y a aussi la gestion du spectacle à la fin, le fait que le clocher tombe, que le monstre les poursuive, mais à deux à l'heure, qu'à la fin, il y a un tourbillon de vin sanguinolent pour la tuer, que t'es encore un artefact pour la vaincre. Non, mais... stop quoi.
Mais franchement, j'en ai déjà parlé, mais la scène de la cloche qui tombe, vraiment, ça m'énerve parce que c'est vraiment, tu vois le truc arriver, tu vas te dire, oh putain, ça va faire un boucan infernal, ça va faire s'effondrer la moitié du bâtiment, ça va être énorme. Et en fait, le moment où la cloche touche le sol, c'est tellement surdécoupé que, et même le son est tellement dilué qu'en fait, bah, et puis je sais pas comment c'est mixé, mais non, ça fait pas tellement plus de bruit, t'as à peine conscience de l'impact, tellement tout est haché et qu'il y a aucune action un petit peu continue dans ce film quoi, qui peut avoir un peu de poids, un peu de texture.
Ça m'a donné juste envie de rejouer Uncharted 3, hein. Cette scène de clocher là qui s'écroule.
Ouais, la scène qui me saoule, c'est la scène avec où ils se font foncer dessus par le joueur de...
Ouais, le Cerber.
Le Cerber, je sais pas quoi. Où,
le book.
Je trouve ça assez représentatif à partir du moment où les autres films de la saga, les quelques bons films de la saga l'ont prouvé, c'est que voilà, un démon qui te fonce dessus, ça fait peur. En plan fixe, là, il découpe ça comme dans Taken, quoi. C'est, je ne comprends pas. Et je pense que le fait qu'on cite autant de scènes, c'est le truc de la Nonne 2, en fait, c'est que c'est un genre de précipité de tout ce qui va pas dans ce genre de film. Et, du coup, c'est juste chiant.
Et tu vois, ce que je disais à Mathieu pendant la vidéo, c'est que, en fait, le seul but de ces films, qui a une écriture en général très pauvre et des personnages très pauvres, c'est de faire peur. C'est vraiment la sensation de peur. Et là, sachant qu'à chaque fois que tu coupes au montage, que tu coupes un plan, c'est une manière de détourner le regard. Le but des films, justement, pour faire peur, c'est de ne pas détourner le regard, de te mettre en face de ta peur. Et ça, c'est quelque chose que font plutôt pas mal les premiers films de la saga. Et là, au contraire, le film est toujours, toujours en train de te faire détourner le regard et en fait de ne pas assumer le fait de te faire peur. Donc c'est quoi le but, du coup? Et je pense notamment à une scène aussi qui m'a beaucoup énervée en termes de montage et de mise en scène. C'est quand il y a une gamine qui est enfermée dans l'église désaffectée, là, en travaux, par des méchantes gamines, et elle est derrière la porte, et près de la porte, donc derrière elle, il y a cette espèce de grande silhouette d'une grande statue qui est sous un drap, donc évidemment la silhouette fait peur, enfin bon, c'est classique, une silhouette sous un drap, et en fait, on sent à un moment donné, on entend que la statue bouge un peu, s'avance un peu vers la gamine, elle fait, je sais pas, un demi millimètre. Et en fait, au moment où elle bouge, on passe sur le profil, un profil serré au niveau de la tête de la statue sous le drap. Et en fait, du coup, ça nous fait complètement perdre la mesure de ce que la gamine est en train de voir et de à quel point elle bouge, à quel point c'est perceptible. Et du coup, ce qui était parti pour faire vraiment peur ne fait pas du tout peur. C'est d'une frustration incroyable, quoi.
Et moi, j'ai encore beaucoup de mal avec la compréhension des règles de ces saloperies de démons, parce que le bouc, là, à un moment, il descend, il dévale les escaliers, il tape sur la porte, te dit, mais... T'es un bouc. Genre, si t'as un truc que tu sais faire, c'est de défoncer une porte. T'as des cornes, espèce de débile. Et il tape la porte, et après il pop à l'intérieur, invisible. Il commence à tirer par les pieds les gens, les balancer. Tu dis, mais quel est ton pouvoir? Et après, il passe à côté de tous les enfants qui sont dans une pièce, mais pas du tout cachés, et il les entend pas. Tu dis, mais je ne comprends pas. Ils sont complètement débiles, en fait. Et là, c'est que tu vois que l'artifice de... Je retarde la potentielle rencontre et interaction, parce qu'en fait, bah, s'il les trouve, bah, il n'y a aucune raison. Il va les piétiner et les déchiqueter. Et en fait, le film n'arrive plus du tout à masquer ce truc-là que normalement un bon film arrive à te faire, de « Ah, pourquoi il ne la tue pas ?» C'est parce qu'en fait, elle a réussi à rallumer la lumière, elle a appelé quelqu'un est arrivé, elle a trouvé un truc. Et à chaque fois, tu dis « In extremis, elle a trouvé le truc, mais il y a un moment, elle n'aura pas cette clé pour l'affronter. » Et là, il n'y a aucune clé. En fait, ça joue juste sur le fait que bah, il est con, il n'est pas vu, il n'a pas entendu, ils arrivent à courir plus vite. Non, mais attends, le truc, il court trois fois plus vite que les gamines. Et il n'arrive pas à les rattraper, il reste bloqué derrière la porte. Mais non, mais sérieux.
Il y en a une qui tombe en plus pendant qu'elle
Oui, c'est vraiment, ça, non, c'est... Mais on dirait Benny Hill, quoi. Vraiment, c'est un sketch. Ce truc,
c'est trop agaçant à regarder. Et en plus, pour pallier à ça, il pourrait au moins jouer. Alors, cette histoire de décor m'énerve trop sur le décor. Parce que donc, comme dans énormément de films d'horreur, ça se passe dans un pensionnat de jeunes filles. Et il y a tellement d'histoires d'horreur, enfin, c'est hyper cliché, mais c'est hyper facile de faire des chouettes scènes et de bien utiliser ce genre de décor qu'on connaît déjà par cœur. Donc en plus, il suffit d'activer quelques réflexes, on va dire, qui vont tout de suite, voilà. Et en plus, pour avoir, moi, passé une partie de ma scolarité dans un décor extrêmement semblable, dans un établissement très semblable, je sais, enfin, je veux dire, mon plaisir, c'était vraiment de me balader dans tous les recoins et de t'inventer des histoires d'horreur partout. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses à faire dans ce genre d'établissement. Et là, on voit un quart de cloître, à chaque fois. Je veux dire, il y a un cloître dans lequel il y a un petit jardin, un petit potager où Maurice, il fait pousser ses tomates, et le bout de couloir qui est à côté. Et c'est tout, quoi. C'est dingue. Je comprends pas comment tu peux te dire, on va dans un orphelinat ou dans un pensionnat de jeunes filles, et on va montrer un bout de couloir. Est-ce que le budget était... Non, le budget devait être correct, en plus, je me rappelle plus.
Ah oui, il a coûté quasiment 40 millions, ce truc de merde.
Mais qu'est-ce qu'ils foutent?
Non, c'est hallucinant. Et ce que je trouve être vraiment la pauvreté ultime, c'est qu'il recycle un plan de Conjuring 2, le couloir des Warren, qui est marquant, puisque c'est une des meilleures scènes de la saga, donc celle où la nonne apparaît pour une des premières fois. Et la scène post-générique, c'est les Warren qui décrochent le téléphone. Genre, mais dans quel monde le teasing, c'est les Warren qui décrochent le téléphone en disant « Oui, mon père. » Oh, d'accord, fin. Mais what? Mais c'est même pas une scène d'intro, c'est un bout de scène, ça me raconte rien. Je suis censé être stimulé par quoi? Ils répondent au téléphone et il y a quelqu'un qui. Bah, je m'en fous, quoi.
C'est vraiment histoire d'avoir montré leur tête à l'écran, quoi. Mais c'est.
Quoi, non, mais... C'est peut-être que plus qu'ils disaient que cette scène a été recyclée. Bah, c'est...
En fait, j'ai vu ça dans un article, mais la source, c'était un tweet qui était supprimé. Du coup, je peux pas l'affirmer, mais cet article en question disait que. En fait, c'était probablement une scène coupée de la fin de Conjuring 3 qu'ils ont retiré au bénéfice du bisou. voilà. Bon, ça pourrait être n'importe quel film, hein. Ils font que décrocher un téléphone, j'ai envie de te dire.
Oui, non, mais c'est ça, il y a même pas un truc qui les relie, il y a rien qui est censé me dire, ok, c'est la suite de cette histoire, ils vont rappeler un truc, mais
c'est pour faire le lien avec. Je pense que c'est parce que du coup, c'est le prêtre qui les appelle pour exorciser Maurice.
Ah, Godot, premier Conjuring. Et le...
Oui, parce que ça aussi, du coup, c'est moi qui me suis occupé de la news sur la scène post-générique, hein, donc j'ai vu, ce bordel narratif absolu, le Maurice là, il s'est fait posséder dans le 1. Il est resté possédé, là il se fait déposséder dans le 2, mais au début de Conjuring 1, on te montre bien qu'il s'est fait re-exorciser, donc il s'est fait reposséder, mais est-ce qu'il est encore possédé ou est-ce qu'il s'est fait reposséder? Est-ce que ce mec n'a juste pas de bol dans la vie parce qu'il va finir par éclater le bras de sa femme et suicider
Et en plus, tu vois que tout ça, l'exorcisme raté, arrive alors qu'il est beaucoup plus âgé. Donc c'est-à-dire qu'il a passé des années et des années.
C'est pas le même acteur,
Donc ouais, c'est fascinant. En tout cas, ça pose quand même des questions sur ce bordel. Donc on est sur 9 films en 10 ans. Le dernier en date, c'est donc La Nonne 2, fantastique en 2023. Quel est l'état de cette saga? Alors on voit qu'artistiquement, ça commence à se casser la gueule, mais moi je me pose la question de qui pilote la saga Conjuring aujourd'hui. À l'origine, c'était globalement James Wan d'un point de vue artistique, soit en réalisateur. Parfois, il était crédité pour les idées.
Au tout début, il y avait Tony de Rosengrund là avant qui.
Ouais, mais je crois qu'il a vite été dégagé lui en
fait. Ouais, c'est ça. Ouais. À partir du moment où ils ont commencé à faire des spin-offs, je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il les poursuit en justice. Donc.
Du coup, il y avait James Wan et Peter Safran qui étaient pour le côté tous les deux produits. producteurs avec leur boîte de prod à chacun, du côté avec Warner Bros derrière, et James Wan qui était donc là parfois pour les reshoots comme la nonne, qui donnait des idées, genre fait apparaître la nonne sur une photo, tu vois, c'est génial, lol. Et Peter Safran. Maintenant, où est-ce qu'ils en sont? Bah, James Wan, il est quand même bien occupé chez Warner.
Bon, après,
en
train de... ça reste Atomic Monsters qui produit, je crois, la None 2. Après, à son... il, je crois qu'il est pas, il a pas de crédit officiel de producteur, il me semble.
Ah si, si, il est crédité, ouais.
Ah,
ouais.
Ah non, non, pas dans la None 2.
Bah, en tout cas, moi, il me semblait pas l'avoir vu sur l'affichage.
Il y a eu des photos
dans tous les trucs, quoi.
Il y a eu des photos de lui sur le tournage et voilà, il est passé faire coucou et tout, mais je crois pas vraiment qu'il apparaisse.
Après, c'est produit par sa boîte de prod, donc techniquement,
déjà un producteur, mais désengagement, quoi. Effectivement.
C'est sûr qu'il est plus en haut de l'affiche comme il était.
Il a pas aidé reshoot de la nonne de là. Et bah, Peter Safran, maintenant, il est co-président de DC Film avec James Gunn. Donc, a priori, il a du pain sur la planche.
Ouais, peut-être
dans
que dans
4 années.
Ans, il va se retrouver encore à chômage. Donc...
Non, mais toujours est-il que c'est intéressant de se dire aujourd'hui qui, artistiquement, qui est le Kevin Feige, qui est vraiment la personne un peu la tête pensante parce qu'il y a quand même un univers organisé. Qui on va continuer à exploiter? Est-ce qu'on ouvre de nouvelles portes avec des nouveaux monstres, avec les idées qui ont été lancées?
C'est comme Insidious, ça va devenir Patrick Wilson.
Ça serait génial.
J'espère pas.
Non, tu vois, Insidious, le truc qu'ils l'ont laissé un peu pourrir avec un peu tout n'importe quoi. James Wan qui clairement avait d'autres choses à faire, genre Conjuring. Et on voit que visiblement. Alors j'ai pas vu Insidious 5, je crois que vous êtes un peu partagé.
Ah non, non, moi j'aime bien.
Ouais, alors que Mathieu le trouve horrible.
Bah presque bien quoi.
Ouais. Oh, furie, on en avait pas parlé.
Après, toi t'as mis Insidious 3, donc. Ou 4.
Et ah non, le 4, je le déteste.
Non, t'aimes bien le 3, alors que moi je le trouve assez honteux.
Ok.
Mais. Dans les gens qui sont aujourd'hui un peu importants, bah, y a Michael Chavez qui a réalisé La Dame Blanche, Conjuring 3 et La Nonne 2. Donc est-ce qu'il est en train de s'enterrer? Est-ce que ça devient...
Bon, ils n'ont pas encore communiqué qu'ils réaliseraient Conjuring 4, mais bon, il y a des chances quand même.
Ouais, c'est ça. Y a Gary Doberman qui était scénariste de Annabelle 1 et 2, scénariste et réal de Annabelle 3, qui a écrit La Nonne, prod sur La Dame Blanche, donc pareil, qui est quand même un peu fait partie des meubles. Et maintenant, dernièrement, il y a des gens qui sont dans l'entourage de James Wan qui sont arrivés. Scénariste Akella Cooper, qui était donc sur Malignant et Megan. Et David Leslie Johnson McGoldrick, bordel.
Il est possédé.
Ouais.
Sinon, c'est une incantation.
qui était co-scénariste sur Aquaman et qui était sur Conjuring 3. Donc on sent que ça reste un peu quand même dans le cercle rapproché de James Wan, même s'il n'y a plus James Wan. Toujours est-il que oui, je ne sais pas, si Michael Chavez réalise Conjuring 4, est-ce que du coup ça veut dire qu'il prend un peu le pilotage de la saga pour le pire et pour le pire? En tout cas, c'est pas très clair jusque-là. Qu'est-ce qu'on sait de Conjuring 4 et la série? Jusque-là, on ne sait pas grand-chose, il me semble.
Les Conjuring 4, on a les scénars, je crois, et je crois que c'est les mêmes que ceux du 3. Donc autant te dire que là, on sait que ça va s'appeler, enfin a priori, le titre jusqu'ici c'est Conjuring 4 Last Rites.
On espère que c'est la fin, ouais.
Et que ça devrait être le dernier, a priori.
Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que, est-ce qu'ils peuvent se permettre de boucler l'histoire des Warren pour continuer la saga
après,
sans les deux personnages?
Les spin-offs sont toujours sortis très très bien sans la saga Conjuring. Hein,
ouais, mais du coup, est-ce que tu continues la saga sans faire de Conjuring et juste avec des spin-offs?
Je sais pas, mais là, vu comment ils ont intriqué les histoires de Conjuring et de la nonne, ça prouve qu'ils essayent non plus de faire une saga principale et plein de spin-offs, mais un genre de gigantesque magma, toujours le modèle Marvel, de toute façon. Mm.
Et tout le monde, d'ailleurs, ils ont pas projeté de faire un film entièrement dédié à Amityville, du coup, c'est que dans l'intro du 2.
Ouais,
qui est vachement bien, je trouve que cette séquence est vachement bien, je trouve.
Cool,
mais
je vais même pas me souvenir de ce qu'il y a dedans.
Bah c'est tu sais Lorraine qui imagine qu'elle est dans la peau de Ronald DeFeo là qui assassine sa famille.
Oui. Non mais en plus séquence qui je trouve fait enfin pour l'avoir revu je me suis dit en fait il refait Insidious parce que
Insidious on a dit.
Wow.
Ah oui parce qu'elle est un peu dans le lointain.
Bah ouais. Puis tu sais c'est éclairé un peu bleu enfin c'est un peu la même idée quoi.
Et pour la série qui a été annoncée sur HBO Max, enfin, je crois qu'il s'appelle juste Max maintenant, histoire de que ce soit vraiment très clair, annoncée début 2023, bon clairement là on est sur une logique de remplir le catalogue.
Je crois qu'en 2021, je crois, je sais plus, c'est Safran ou je sais pas quel prod qui avait dit qu'il cherchait dans tous les cas à investir la télévision à un moment.
Mais de toute façon, à l'origine, quand le truc a été lancé avec le producteur dont j'ai oublié le nom là, le tout premier qui a lancé le projet avec Ed Warren, il voulait faire une série et il y a eu un contentieux juridique entre la Warner et lui parce que lui voulait utiliser le mot Conjuring, le titre Conjuring qui avait été choisi par la Warner pour faire une série parce qu'il avait les droits TV et il y a eu un peu une guerre judiciaire parce que la Warner a dit bah maintenant c'est notre nom donc tu vas pas en bénéficier espèce de bâtard. Donc 10 ans après ils font une série qui serait officiellement connectée, qui décrivent comme plutôt un drame dans le même univers, enfin il y a tout le bullshit du vague, c'est dans le même univers, tu sais pas qui est dedans, de quoi ça va parler, il y aura juste le mot Conjuring et voilà, bon courage. Et bon bah ça on sait pas trop quand, ni comment, ni avec qui. En tout cas c'est les prochaines étapes, ce qui est quand même pas très excitant de se dire qu'ils vont décliner ça en série.
Non.
Surtout que bon on verra, hein, peut-être que Conjuring 4 sera génial. Bon, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est qu'en revoyant toute la saga, déjà que j'étais pas très fan, en le revoyant, je me suis dit vraiment, c'est encore pire que ce que je pensais. Et maintenant, je l'aime encore moins. Plus je la revois, et plus je trouve que c'est du foutage de gueule et que c'est des miettes de choses réussies au milieu d'un truc qui est juste une escroquerie, en fait, ce qui est plutôt cohérent avec les Warren au final. Hein, mais tu sais, j'ai aucun moment de ma vie, je me dis, je revois un film des Conjuring, du Conjuringverse, parce que c'est cool, alors que le premier Insidious, je l'ai revu plein de fois, par exemple.
Mmh. Ah,
je
oui,
trouve
oui.
que c'est vraiment trop. Trop plat, trop facile, trop superficiel.
Alors que Malignante, oh, je vois tous les jours, avec grand plaisir.
Non, même non. Sinister, tu vois, Sinister, j'ai revu plein de fois.
Ah
je trouve
oui,
qu'il y a un truc qui est riche,
oui.
l'imaginaire
oui.
et tout. Y a
c'est au-dessus, c'est au-dessus.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais pourtant, c'est façonné dans la même pierre, tu vois, ça aurait dû être à peu près similaire, quoi. C'est ça que je comprends pas.
Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de. Enfin, c'est plus intelligent, Sinister, et il y a beaucoup moins de. Justement, on en fait des caisses et qu'on te ressort tous les clichés. Enfin, c'est un peu plus original, je trouve, un peu plus authentique.
J'ai l'impression qu'il y a moins le cahier des charges. Trouve, tu vois, la ouais. fin, qui est quand même. Techniquement un peu anti-spectaculaire, ils oseraient jamais un truc pareil dans l'univers Conjuring.
Ouais, ouais, puis Sinister, c'est pareil, ils osent beaucoup plus les silences. Il y a cette musique qui est terrifiante sur les vidéos. Enfin, ouais. Ouais, non, c'est plus authentique, quoi.
Et est-ce que, je me suis posé la question, est-ce que quand la saga Conjuring a été lancée en 2013, donc il y a 10 ans, est-ce que le paysage horrifique était un peu différent et ça explique peut-être pourquoi ça a évolué comme ça, peut-être pourquoi. Quand j'ai vu Conjuring le premier à l'époque en projection, je m'étais dit, bon, je m'en fous, mais ok, ça passe. Et en revoyant aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est pire. Parce que la saga évidemment a continué, donc j'ai l'impression rétrospectivement que c'était quand même du foutage de gueule. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, le paysage horrifique a changé et ce qui fait que ça donne une autre couleur et que sortir un Conjuring aujourd'hui avec les méthodes d'il y a 10 ans qui étaient elles-mêmes pompées sur les 30 dernières années, ça rend ça encore plus ringard? Est-ce que vous pensez qu'un truc a changé en 10
oui,
ans
parce qu'en fait, je pense que quand le premier Conjuring est arrivé, on était vraiment dans le haut de la vague de ce qui avait été déclenché par Paranormal Activity et les found footage et les histoires qui se passaient vraiment à notre époque, tu vois, avec. On essaye d'instaurer, enfin, d'inclure un peu les nouveaux médias, ce genre de choses, des histoires beaucoup plus actuelles et de chercher un peu de nouvelles manières de faire peur, même si c'était, ça reposait pas toujours sur grand chose comme dans Paranormal Activity. Et du coup, je pense qu'il y avait vraiment un effet old school, tu vois, revenir avec Conjuring, c'est vraiment, on revient un peu à l'horreur à l'ancienne, entre guillemets, qui faisait aussi du bien. Moi, j'aime bien les deux genres, mais voilà. Et en plus, ça s'est démarqué aussi de toute l'elevated horror, entre guillemets, qui a pris son envol depuis, ou même si j'aime aussi beaucoup de films de soi-disant elevated horror, Conjuring, c'était vraiment un petit peu la valeur sûre de oui, mais vous inquiétez pas, on va continuer de vous mettre le diable et les portes qui claquent, tu vois. Donc voilà. Mais aujourd'hui, en même temps, ça a enclenché une telle vague, un tel raz-de-marée de sous-Conjuring qu'aujourd'hui, maintenant, même parmi les sous-Conjuring, ils ont du mal à se démarquer en tant que saga originale, quoi.
Ah ouais, je suis d'accord. Maintenant, ils font des sous-Conjuring en prenant d'autres religions. Ce qui n'est pas inintéressant.
À quoi tu penses? C'est quoi les sous-Conjuring?
The Vigil avec le judaïsme.
Qui, pour le coup, je trouve, est un excellent film.
Ouais.
Mais ça reste dans la vibe, quoi.
Oui, puis il y a un côté.
C'est vous qui avez vu Inside, non? C'est pas un peu ce style-là, un peu?
Ouais, mais c'est pas bien. Ouais. Enfin, ouais.
Non, puis je trouve que les deux ont un côté un peu. Enfin, surtout The Vigil, qui a un côté un peu plus autorisant, quoi. Tu sens que c'est un spectre un peu plus resserré, plus intime. Il y a moins de spectaculaire.
On reste dans la formule, maison. Mais si vous voulez avoir peur, regardez The Vigil, ça fait très peur.
J'ai trop peur, moi.
Ah putain.
On a compris, Geoffrey, t'as jamais peur, voilà.
Si, il me terrifie, par exemple. On peut reparler de Signe, si vous voulez. C'est Signe ou Tomb Raider, vous choisissez, vous parlez d'un des deux.
Bon, en tout cas, j'ai sondé notre Discord, d'ailleurs.
Ah, intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont
fait? En fait, aussi, ils détestent, en fait. On dit toujours.
Oh.
Mais tu vois, on dit toujours.
Que les gens de bon goût,
vous aimez rien, tout ça, mais. Ils étaient d'accord.
On sait que sur Discord, il y a des gens bien. C'est aussi pour ça.
C'est pour ça. On vous aime.
C'est pour ça que je suis pas sur Discord.
Sûrement. Non, mais bon, y a eu pas mal de débats. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était nul. Mais du coup, je demande aux gens de voter de 1 à 5. Et le premier de loin est Conjuring. Par contre, le dernier, c'est La Nonne. Voilà. De très loin. Sinon, c'est Conjuring 2, Annabelle 2, Conjuring 3. Qui est plus haut que nous, ce qu'on en dit. Annabelle 3, ensuite c'est Annabelle 1, La Dame Blanche, La Nonne 2, et en tout dernier, donc La Nonne. Mais en fait, si tu retires les Conjuring et Annabelle 2, il n'y a pas un seul film qui est en dessous des 2 sur 5 de moyenne, donc ils détestent.
Mais après, moi je dois dire, ça me fait penser un peu au fait que quand je fais découvrir des Conjuring à quelqu'un qui ne les a pas encore vus, il y a ce moment où, tu sais, le fait d'avoir un regard extérieur à côté de toi, ça te fait prendre un recul que t'as pas sur le film quand t'es tout seul, et où je me dis ok, là je comprends que la personne se fasse chier, ou genre je comprends qu'elle aime pas, je sens que la personne va pas aimer, et du coup c'est des films que je préfère regarder seule parce que je prends mon kiff toute seule, et quand je les regarde à quelqu'un je me dis ok, il y a des limites, j'avoue, c'est bon. Voilà,
j'ai montré à mon copain qui s'est endormi devant, donc tu vois, c'est vraiment genre, c'était terrifiant quoi, vraiment. Et moi j'étais obligé de le regarder en entier pour le travail, donc j'étais ravi de ma soirée. Et est-ce qu'il y a autre chose que ça à voir en cinéma quand on aime le cinéma d'horreur? Est-ce qu'en fait ça bénéficie pas du fait qu'il y a pas grand chose pour l'horrifique grand spectacle un peu mainstream? Tu vois, si tu veux pas voir The Witch et que tu veux voir un truc un peu y aller samedi soir à la légère, est-ce qu'il y a pas un gouffre en fait entre le truc que les gens considèrent parfois en disant c'est pas vraiment du bon cinéma d'horreur, c'est elevated horror, c'est le mix entre le film d'auteur et le film d'horreur, bah, et des trucs un peu simples d'accès, faciles à consommer?
J'ai l'impression que à cause de ce genre de merde, l'étiquette elevated horror, qui est comme tu as bien mis des guillemets, ne verra strictement rien dire, elle a été appliquée à tout ce qui n'était pas complètement con et blindé jumpscare en fait. Enfin, ouais. Excuse-moi, mais on dit ça de, je sais pas, de trucs comme, bah tu vois, The Vigil, alors qu'excuse-moi, mais bah, c'est un film d'épouvante, hein, ça fait la peur. Ouais. C'est pas parce que les mecs ils font des plans de plus de 4 secondes et qu'il y a des trucs un peu plus intéressants dedans que c'est un truc pour un télo. Enfin, je veux dire, il y a un moment, pareil pour, je sais pas, les films d'Ari Aster. Enfin, ok, Hérédité, c'est hyper malin, c'est hyper intelligent, mais c'est un film d'horreur, bah, ça fait hyper peur. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je trouve que c'est un peu un. C'est pas un non-sujet. Je pense qu'aujourd'hui, ça va mieux qu'à une époque où il n'y avait vraiment que ça.
Ouais.
Maintenant, il y a quand même plus d'alternatives. Après, oui.
Bah, est-ce que, par exemple, si on compare à des taux qui ont marché ces dernières années, genre Smile et La Main, qui sont les deux plus gros cartons récents, petit budget, maxi profit, vous trouvez que par rapport à Conjuring, moi, clairement, je préfère de loin Smile et La Main à Conjuring. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant, beaucoup plus effrayant. Non. Je trouve qu'il y a des images qui marchent beaucoup plus, surtout dans Smile.
Bah, pour moi, ça dépend de quel Conjuring on parle, mais si on parle du premier, enfin, en tout cas, de ce que je préfère dans Conjuring, non. Alors, j'ai vraiment bien aimé Smile, genre vraiment, mais pour moi, c'est pas au niveau parce que c'est pas autant des histoires de fantômes et une imagerie de fantômes comme j'aime. La Main, pour le coup, moi, j'ai pas du tout accroché comme d'autres. Donc, pour le coup,
moi, j'ai adoré La Main, pour le coup.
Ah, t'as adoré?
Ah ouais, je pense que c'est une épouvante que j'ai préférée cette année pour l'instant. Parce que Barbare, c'est l'année dernière. Ouais, non, j'ai trouvé ça trop bien. Mais Smile, je trouve ça. Pour moi, c'est un peu dans la même catégorie que James Wan, sans le côté classicisme, c'est-à-dire que c'est de l'horreur hyper codifiée, mais bien faite.
Enfin, ouais.
ça va quoi, c'est du jumpscare et tout, il y a plein de défauts, mais le monstre à la fin il est cool, il y a des scènes qui font, il y a des jumpscares qui fonctionnent, et pareil, je veux dire, Smile, le fait que le film mette une bonne demi-heure à vraiment y aller dans l'épouvante, parce qu'il, attention, ça arrive, installe ses personnages, je sais pas, ça a rendu les gens fous quoi, mais comme si c'était la révolution, mais les mecs, calmez-vous, c'est du cinéma en fait, enfin je veux dire, c'est pour ça je pense que l'uniformisation de cette saga, ça peut pas être une bonne chose dans tous les cas, parce que ça crée un nouveau standard, un peu comme Blumhouse à une époque l'a fait aussi d'ailleurs, qui est pas vraiment sain pour cet écosystème.
Oui, bah c'est vrai que moi que je m'en suis bien aperçu, hein, quand j'essaye de défendre les films auprès de vous et pour vous faire comprendre ce que j'aime dedans,
et
c'est vrai.
Se moque de toi.
Non, mais c'est vrai que je passe ma vie à dire c'est moins pire que pas le pire et tout, voilà, parce qu'encore une fois il y a des images que j'aime sincèrement dedans, mais c'est vrai que bon, on devrait quand même être capable d'apprécier le cinéma et ces films-là autrement que à base de c'est moins pire que quoi.
Et moi le truc que je trouve dommage et qui pour le coup me coupe toute excitation possible pour la suite, c'est le symptôme Mission Impossible de prendre toujours les mêmes personnes, même réal pour faire films. Je trouve ça tellement dommage de pas imaginer, qu'ils n'imaginent pas qui sont les gens qui ont fait des petits films d'horreur, des courts-métrages ou des longs. On les prend sur notre saga, ils vont apporter un truc, tu sais, ils ont, que ce soit quelqu'un qui a fait Smile ou La Main, tu prends les deux mecs qui ont fait La Main et tu dis, bah, on les fout sur Conjuring 4. Et voilà, tu te dis, la logique de Masters of Horror, vraiment, on prend des gens qui sont en train d'émerger, un peu comme Guillermo del Toro quand il fait sa série sur Netflix, qui s'appelle comment? J'oublie.
Cabinet de curiosité.
Tu te dis, voilà, sous mon parapluie de puissance, James Wan, Warner, peu importe, tu prends des jeunes artistes et tu te dis, voilà, ils vont apporter un truc.
Pour les broyer.
Finalement, ils sont copiés à la formule Marvel sur à peu près tout, sauf ça. C'est-à-dire, typiquement, Marvel, ils font ça à chaque fois maintenant. Ils prennent la petite sensation indé qui a fait le film qui a bien marché en festival, qui a pris quelques récompenses, et ils lui donnent un méga blockbuster parce que c'est l'assurance d'avoir quelqu'un qui sait tenir une caméra, qui a à peu près des idées, mais que tu vas pouvoir quand même hyper museler parce que c'est pas encore des méga stars à la, je sais pas, des cinéastes hyper célèbres, tu vois, genre Ari Aster, il pourrait pas faire ce genre de truc. Mais du coup, c'est dommage parce que finalement, cette saga-là, je pense, en profiterait justement. Ils l'ont plus ou moins fait avec Sandberg quand même.
Oui, ça c'était une
logique. Avec Corinne Hardy.
Sandberg, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fait Shazam 2.
Ouais, bah...
ça broie les talents.
C'est pas la faute de James Wan, ça. en tout cas, on va arrêter de parler de Conjuring parce que j'en peux plus. Est-ce qu'on peut ne plus en parler pendant un an parce qu'en fait j'ai ouvert la porte
jusqu'à l'année prochaine.
On verra.
Et Conjuring 18.
Ouais. Bon, en tout cas, ça a confirmé que Judith a des goûts encore plus douteux que Mathieu, ce qui est un exploit. Faudra vraiment, je pense, qu'on fasse un jour un podcast sur l'univers Conjuring, pas avant un an, s'il vous plaît. Le jour où le podcast d'écran large existera, et il faudra espérer que les gens l'aimeront, l'écouteront, le partageront, lui mettront une bonne note et auront envie qu'on continue, surtout après tout ça investi dans Conjuring, la nonne et compagnie. Et pour ça, je pense qu'on peut conjurer et prier la nonne, Annabelle et Warren, en espérant qu'ils nous aideront. Et je dis amen. S'il vous plaît, dites amen avec
amen.
Moi.
Amen. Et Warner, c'est l'anagramme de Warren.
Ouh.
Tout est lié.
Waouh.
Merci.
C'est la meilleure
fois.
Depuis tout à l'heure, je me dis quand est-ce que je vais réussir à casser.